Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, émission préenregistrée le 28 mars 2002 et diffusée pour la première fois mercredi 17 avril 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un peu une arnaque d'ailleurs de dire bonsoir, parce que pour nous, là, il est l'après-midi, il est 2h20 de l'après-midi, puisque c'est une émission enregistrée, comme on a dû vous le dire.
Pré-enregistrée,
on est le combien ?
On est le 28 mars.
Le 28 mars, donc, et vous écoutez cette émission le 17 avril, si Dieu veut, parce que quand même, c'est lui qui tient les fils de nos vies. Et... par conséquent, nous ne parlons pas d'actualité. Vous voyez comme ça se trouve, d'ailleurs, ça tombe mal, parce que le 17 avril, sauf erreur de ma part, il y aurait quand même une actualité brûlante, que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Mais
actualité brûlante, électorale peut-être.
Comme nous sommes chassés, je parle au présent alors que c'est dans le futur, au moment où vous m'écoutez... nous aurons été chassés des studios par des ouvriers, quelle horreur.
Qui seront montés à l'assaut des murs.
Des ouvriers, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que... c'est pas la peine d'être de droite pour être chassé par des ouvriers. Et donc, cette émission est enregistrée.
Alors, la droite est sociale, qu'est-ce que vous nous racontez?
Oui, mais bien sûr, il ne fallait pas pour les ouvriers.
Ne dites pas n'importe quoi.
Pour moi, j'ai été élevé comme ça. Un ouvrier, c'est un communiste, hein, il faut se méfier. En plus, ça n'a pas toujours les mains propres.
Ça n'a pas toujours été vrai.
Enfin,
pas
encore.
Pas du tout.
On dit que la main d'un ouvrier n'est jamais sale. Enfin bon. Allez, assez de bêtises. Je me suis demandé ce qu'on pouvait bien faire trois semaines à l'avance dans une émission qui est censée être une émission d'actualité. Et puis, il y a un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. C'était plus exactement un personnage dont je voulais vous parler depuis longtemps, et qui est Loïc Leribaud. Loïc Leribaud, c'est quelqu'un que vous avez entendu à cette antenne, puisque je lui avais demandé d'intervenir par téléphone après l'explosion de Toulouse, et parce que Loïc Leribaud est un expert qui a beaucoup travaillé pour la police judiciaire et la gendarmerie, et qui n'a pas hésité à remettre en question les conclusions officielles de l'enquête, des enquêtes sur plusieurs affaires, et notamment de la fameuse affaire de la maison des têtes à Toulon, une maison qui a été détruite par une explosion, qui a été attribuée au gaz, alors que c'est très probablement un missile de la Marine nationale qui a fait exploser cette maison. Par accident, bien sûr. Alors, j'ai dit la Marine nationale, vous remarquerez que j'ai pas dit de quelle nation. Je n'accuse évidemment pas la marine française, je sais bien ce qu'elle me dirait.
Elle n'aurait pas tort.
Elle n'aurait pas tort. Donc une marine nationale. Et en conversant avec le Ribaud, j'ai découvert que c'était un personnage tout à fait extraordinaire. Et tellement extraordinaire qu'il est même extra-frontière, puisqu'il est obligé de vivre en Irlande. Parce que si nous avons été chassés du studio, lui, il a été chassé du pays, pas par des ouvriers. Et le problème, c'était que c'est difficile de faire une interview de 3 heures au téléphone, ou un entretien même de 2 heures au téléphone, et que c'était, pour mon compte, à peu près impossible de partir en Irlande.
Hélas.
Et là, j'aimerais bien y être, mais ben, c'est très difficile. Il faut avoir le temps, il faut avoir les sous, il faut avoir plein de choses que je n'ai pas. Et puis, mon excellent camarade Jean-Paul Leperlier, qui est journaliste, qui a été le journaliste dans les meilleurs journaux, me dit un beau jour, il n'y a pas très longtemps, « Tiens, je vais en Irlande. » Et je dis, « Mais comme ça se trouve, est-ce que tu ne ferais pas un saut pour aller voir Loïc Le Ribaud et faire une interview de lui ?» Voilà, ce qui a été dit a été fait. Et Jean-Paul est parti en Irlande avec un magnétophone sous le bras. Et il a fait un long entretien avec Loïc Le Ribaud. Entretien qui porte sur deux points. D'abord, ses activités de chercheur travaillant pour la police criminelle, la police judiciaire et la police scientifique et la gendarmerie. Les mésaventures qui s'en sont suivies. Et puis le deuxième aspect, c'est son travail d'empêcheur de médecine en rond. Comparable par certains côtés, sa mésaventure étant comparable par certains côtés à celle qui a frappé
Mirko
et Monique Beljanski.
Beljanski.
Et donc je me suis dit que c'était un beau sujet d'une actualité constante et que c'est un sujet gravement politique puisqu'on est en période politique et qui peut être évoqué sans qu'on soit tenu par l'actualité brûlante, l'actualité immédiate. À propos, est-ce que Le Pen a eu ses signatures?
On n'en sait encore rien, puisque c'est le 2 avril.
Ah bah oui, et on est le combien?
Le 28 mars.
Le 28, on est déjà le 28? Tout à l'heure, on était le 27.
Je l'ai rencontré, Le Pen, le week-end dernier,
ouais.
Et dans une réunion publique, simplement. Et il expliquait qu'il pensait qu'il y aurait de nouveau mardi, c'est-à-dire hier, et donc il avait peut-être un espoir, quelque chose.
Bon, eh bah écoute,
aux dernières nouvelles, ils étaient le dernier chiffre officiel dit par la bouche de Jean-Marie Le Pen, c'était 58 qui lui manquait. Mais c'était déjà avant.
Alors vous savez, vous qui nous écoutez, vous savez, oui, c'est pour une fois les journalistes en savent moins. D'ailleurs, pour une fois, non, comme d'habitude, les journalistes en savent moins que n'importe qui. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que vous savez, à savoir si.
Mais par conséquent, je sais que Jean-Pierre Chevènement a les siennes.
Oui, mais ça, je m'en fous totalement.
Il en a même plus qu'il ne faut, mais il les a déposés à midi.
C'est le cadet de mes soucis.
Oui, c'est plutôt mauvais signe, c'est qu'on ne dérange personne dans ces cas-là. Le Pen doit déranger beaucoup plus.
Bien, alors revenons à Loïc Le Ribaud. Donc, Jean-Paul, tu es parti en Irlande, et avant qu'on écoute ton entretien avec Loïc Le Ribaud, que je me permettrai de couper par des questions ou des interventions quand je croirai que c'est nécessaire, je voudrais que tu nous décrives un petit peu ce que tu as vu, le personnage, le paysage, oui. L'ambiance.
Je voudrais dire d'abord pourquoi je suis parti voir Le Ribaud, parce qu'en fait, quand j'allais en Irlande, j'allais déjà voir Le Ribaud, et c'est à ce moment-là que tu m'as dit, si tu vas voir Le Ribaud, interroge-le pour moi, ça peut être extrêmement intéressant pour nos auditeurs. Mais déjà, j'étais très excité par le personnage, dans le cadre d'une enquête que je fais pour un livre que je prépare sur des malades un peu plus intelligents que les autres. Ce sont des malades qui ont préféré survivre illégalement, condamnés par la médecine, plutôt que d'être condamnés par des tribunaux, ce qui est quand même moins définitif, qui ont pris leur santé en main et qui sont parvenus à survivre pour beaucoup alors qu'ils avaient quelques mois à vivre. Et j'enquêtais sur ces malades-là, qui la plupart du temps sont des malades guéris par les produits Beljanski. Je n'ai rencontré à peu près entre 3800 et 4000 dans ce cas-là. Et alors, comme je fais bien mes enquêtes, j'avais tendance à aller chez les malades, interroger leur famille, leurs femmes, etc. Et j'ai commencé par être très étonné, parce que j'apercevais chez tous les malades une petite bouteille, toujours la même, une sorte de petit bidon avec quelque chose dedans de transparent. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un nouveau produit Beljanski? Qu'est-ce que c'est que ça? cette espèce de médicament que je retrouve partout. Et là, on me dit, ben voilà, c'est, nous sommes des malades qui correspondons entre nous, qui nous donnons les bonnes adresses, les meilleures choses, qui sont souvent en dehors de la pharmacopée classique. Et là, on m'a parlé d'un produit, d'un monsieur extraordinaire qui s'appelait Loïc Le Ribot. Et on a commencé à me parler de ce monsieur, on m'a parlé aussi des résultats de ce produit, et d'où l'idée qui m'a pris de me rendre en Irlande pour le rencontrer. D'autant que ce monsieur Le Ribot, alors il faut savoir qu'en tant que journaliste, on rencontre la plupart du temps des gens inintéressants, et dans toute une vie, on rencontre une demi-douzaine qui sont des gens passionnants, des maîtres Biaggi, des Bijard, même de Beckett, je suis quelqu'un d'ailleurs d'intéressant, je ne vais pas le dire, mais il faut rencontrer. Bon. Et puis, je me suis rendu compte que ce Le Ribot était quelqu'un d'un personnage, pas un personnage, mais peut-être trois ou quatre personnages de lui tout seul, ce qui est quand même très rare. Et il y avait déjà donc l'inventeur génial, alors, déjà il y avait un étudiant brillant qui avait commencé par étudier les lettres, et puis qui des lettres, et en un an a eu un doctorat en sciences, suite déjà à des découvertes qu'il avait faites tout jeune, jeune étudiant simplement. Après ce personnage, donc qui est étudiant brillant, on tombe sur celui qui a créé la recherche scientifique française en matière de police, le créateur de la police scientifique. Et là, un personnage qui a tellement gêné les gens dans un pays où les fonctionnaires sont au pouvoir, où on ne peut jurer qu'à travers les fonctionnaires. Le laboratoire de Loïc Le Ribot était visité par des gens venant du monde entier. C'était la fierté de la France, mais le problème pour les fonctionnaires, c'est que c'était une réussite privée. Et ça, ils l'ont très mal digéré, et ils ont décidé de déposséder Le Ribot de son laboratoire. Alors là, les gendarmes, la police, les juges d'instruction, du jour au lendemain, sur ordre de l'État, ou sur pression du moins de l'État, c'est plutôt comme ça que ça se passe, ont arrêté toute commande à ce laboratoire. Et puis l'État, qui devait environ 4 millions de francs à Le Ribot, ne l'a pas payé. Et puis Le Ribot s'est trouvé en faillite. Alors on a arrêté sa société puisqu'elle était en faillite. Et puis on a vendu ses laboratoires qui employaient plus de 30 personnes, payées très cher. Il y avait des milliards de centimes de matériel, des microscopes électroniques qui à l'époque tenaient une pièce plus grande qu'ici. C'était extrêmement cher. Et puis tout ça a été vendu aux enchères très discrètement. À qui ? À la gendarmerie. Et c'est ainsi qu'on a tout simplement dépossédé le Ribot de ce qu'il avait créé, que la police française a trouvé moyen d'être fière, mais de ce qu'elle avait volé, en l'occurrence pas de ce qu'elle avait créé. Alors furieux, Le Ribot a écrit un bouquin contre les gendarmes qui s'appelle le livre noir des clowns en bleu, parce qu'en plus il ne savait pas servir du matériel, et que c'était assez ridicule de les voir faire. Et puis, alors d'où une rancune contre lui, Le Ribot, on lui demande de vendre sa maison parce qu'il avait des dettes du coup. Alors il dit à l'État, écoutez, vous me devez 4 millions, vous voulez que je m'oblige à vendre ma maison qui en vaut 3. Ah bon, lui dit, mais non, mais on vous doit plus rien, puisque votre société n'existe plus. Et voilà donc Le Ribot, sans un centime devant lui. Mais alors ça, c'est le premier Le Ribot. Alors il va en parler très longuement, et c'est passionnant vraiment. Alors, le deuxième Le Ribot, c'est que pendant qu'il faisait ses recherches, un jour il avait des maladies de peau sur une main, sur les deux mains, et il se dit, mais comment se fait-il, une seule des mêmes mains est guérie et pas l'autre, qu'est-ce que je peux bien faire avec cette main qui fait qu'elle est guérie? Il avait du psoriasis. Et il réalise qu'il tenait son microscope électronique d'une main, qu'il travaillait de l'autre main en touchant un produit, et que c'est ce produit qui l'avait guéri. Et ce produit, c'était de la silice, et il réalise qu'il avait créé à peu près, presque par hasard, un mélange qui faisait que la silice qui d'habitude n'est pas absorbée par l'organisme, était devenue une silice organique qui se trouvait cette fois-ci absorbée par l'organisme, et qu'il était arrivé à se guérir à peu près par hasard. Alors il rencontre des médecins, il se met à étudier et il réalise qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, qu'un des principaux processus de vieillissement de la peau, des articulations, c'est qu'on perd le silice qu'on a en soi, la silice, c'est très difficile parce qu'on passe du silicium à la silice. Voilà. Bon, et qu'en fait on vieillit de cette manière, et lui arrive à reconstituer les articulations, à reconstituer la peau, à reconstituer le collagène, en interrompant ce processus de vieillissement, puisque pour une fois le corps peut absorber de la silice qui ne peut pas absorber lorsqu'elle est mécanique, et quand elle est organique, il absorbe. Voilà. Alors il découvre ça, se trouvant sans rien à la rue, vas-y, je vais reprendre du travail, et il commence à guérir les gens de cette manière. Alors il a beaucoup de succès, la presse locale se déplace, et puis après la presse locale, c'est la télévision, l'hôtel dans lequel il travaille est complètement squatté par un tas de gens qui viennent se faire guérir. Et puis, quelques jours après la télévision, c'est la police qui arrive. Des monsieur, exercice illégal, moi j'appellerais ça de la guérison, mais pour eux c'est exercice illégal de la médecine. Et voilà mon Le Ribot qui se trouve chez un juge d'instruction, qui dit, écoutez, voilà, vous êtes en liberté provisoire, pas le droit de vous déplacer, etc. quelques semaines après, le Ribot reçoit une lettre officielle d'une république bananière quelconque, lui disant Monsieur le Ribot, nous avons appris vos recherches extraordinaires, nous sommes prêts à vous subventionner, notre ministre vous attend tel jour, etc. Le Ribot, voyant la chance de sa vie alors qu'il est ruiné, qu'il doit d'argent de tous les côtés, se précipite sur place. Personne ne l'attendait, c'était un piège. Cette fois-ci, on lui déclare qu'il a quitté la France, et quand il rentre, il se fait arrêter. Et lui qui a créé la police scientifique française se trouve enfermé avec des gens qu'il a fait arrêter, en danger de mort permanent. Alors sous prétexte de le protéger, on le met dans les sous-sols, dans les culs de basse fosse, à se geler, en fait, l'enfer, quoi, voilà. Puis finalement, un jour, un juge honnête, ça arrive parfois dans la justice qui est la nôtre, c'est bien que ce soit de plus en plus étonnant, décide quand même que c'est aberrant qu'il soit enfermé, et le libère. Et là, il se dit, j'ai eu de la chance une fois avec un juge honnête, ça risque pas de continuer, et il quitte la France. Et maintenant, c'est une troisième histoire de Le Ribot, c'est le Ribot fugitif. Alors qu'il va s'installer, enfin, c'est cela, il le racontera, parce que je vais quand même pas raconter toute sa vie, puisque malgré tout, il va en parler, et c'est passionnant, voilà. Alors, il y a donc un troisième Le Ribot, c'est aussi le Ribot, qui est un écrivain extrêmement brillant, il a écrit plusieurs livres, c'est un personnage qu'on rencontre très peu. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être maintenant écouter, voilà, parce que si je raconte toute son histoire,
Mais on va l'écouter. Et tu as été reçu chez lui en Irlande,
dans la maison où il habite,
qui est au bout du monde.
Qui est au bout du monde. Alors quand vous allez en Irlande, tout le monde connaît l'Economara, qui est censé être la fin du monde. En réalité, quand même, l'Economara, quand vous dites j'habite un petit peu plus haut au nord, dans un endroit qui s'appelle le County Mayo, la réponse c'est oh le pauvre. Parce que là-bas, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Vous attendez à voir une bergère comme au XVIIIe siècle avec ses moutons ou un chevalier arrivé derrière en armure. Quand vous apercevez une voiture ou simplement des gens avec des chaussures, vous êtes déjà tout étonné. Et il s'est réfugié là-bas, loin du monde. Il a quitté la France, il a laissé les Français aux gouvernants qu'ils se choisissent. Après tout, tant pis pour eux, ils sont punis.
Hein. Alors, il vit dans une petite maison.
Non. Il a une très belle maison. Il a une usine qu'il est en train d'agrandir parce qu'il faut savoir que son produit, du moment qu'il n'est plus en France pour qu'on l'empêche de fonctionner, est vendu dans le monde entier, en Amérique centrale, en Asie, partout. Il a un succès extraordinaire et sans aucune publicité. Uniquement parce que ça marche et que les gens se le disent.
Voilà, alors on va écouter cet entretien de Jean-Paul Leperlier, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview pour Radio Courtoisie et pour le Libre Journal du mercredi soir. Cet entretien de Jean-Paul Leperlier avec un personnage extraordinaire, vous allez voir, qui s'appelle Loïc Le Ribot.
Donc, je m'appelle donc Loïc Le Ribot, je suis né le 18 avril 1947 en Bretagne, à Vannes. J'ai fait des études essentiellement scientifiques, et littéraires en même temps d'ailleurs. Je suis licencié S-Lettres, j'ai une maîtrise de géographie physique, j'ai un doctorat de sédimentologie, un doctorat d'état et sciences et puis quelques autres petites choses.
Vous étiez donc un homme de science et puis déjà un homme d'imagination, parce que qui dit littérature dit quand même aussi création.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, mon père était professeur de lettres et ma mère était professeure de sciences naturelles. Alors je pense que chacun d'eux m'a légué des chromosomes littéraires et des chromosomes scientifiques, ce qui fait que j'étais aussi intéressé par les lettres que par la science.
Oui, ce qui dans votre cas a fait un mélange explosif.
A
amené une vie qui sort pas tout à fait de l'ordinaire, ce qui amène ce reportage. Alors maintenant, nous avons vos études, donc alors.
Donc après mon baccalauréat, je suis rentré à la faculté des sciences d'Orsay. Et j'ai le premier, donc un SPCM, sciences physiques, chimiques et naturelles, et j'ai toujours été d'une nullité crasse en mathématiques et en physique. Donc, logiquement, ça a conduit à l'échec pour cette première année de faculté.
Mais c'est là que vous avez rencontré donc l'instrument qui devait changer votre vie.
Ah non, beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, parce que comme on ne voulait plus de moi, puisque j'étais collé, mais j'avais découvert, grâce au professeur Lafont, professeur de sédimentologie, j'avais découvert la sédimentologie. La sédimentologie, c'est l'étude des roches comme les sables, et ça m'avait passionné. Et puis j'avais découvert également la biologie animale et la biologie végétale. Mais trop nul en mathématiques et trop nul en physique, je ne pouvais pas rester à la faculté des sciences. Donc je suis parti en faculté des lettres, dans le seul domaine qui était le plus proche possible de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'Institut de géographie. L'Institut de géographie où je me suis spécialisé, alors un terme barbare, en géomorphologie, c'est-à-dire c'est l'étude des paysages pour tenter d'expliquer leur formation. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au grain de sable. Ce qui peut paraître bizarre, pourquoi s'intéresse-t-on au grain de sable? Quelle peut être l'importance des grains de sable? Mais les grains de sable, c'est très important. Parce que c'est utilisé dans une foule de domaines. C'est utilisé dans les travaux publics, c'est utilisé pour la recherche pétrolière, c'est utilisé pour essayer de retracer l'histoire tout simplement de la planète, pour rechercher les diamants, pour rechercher les trésors en fait qui sont cachés dans la Terre. Et même, on le verra plus tard.
Mais alors à ce moment-là, vous ne pensiez pas à une profession particulière, c'était simplement une passion pour le grain de sable en sorte.
C'était une passion pour le grain de sable. Surtout, au début, c'était une passion pour les patelles. Les patelles, tout le monde les connaît. C'est ce qu'on appelle les berniques ou les chapeaux chinois qu'on voit coller sur les rochers. Voilà.
Tout à fait, oui.
Alors, le vrai nom, c'est patelles. Voilà. Et alors, je me suis intéressé aux patelles. Pourquoi? Parce que un jour, que j'étais enfant, en Bretagne, bien entendu, il se trouve que j'ai glissé dans une flaque d'eau où je voulais faire des macrophotographies. J'étais déjà passionné par la macrophotographie à l'époque. Et je suis tombé dans une flaque d'eau qui faisait un mètre de profondeur à peu près. Et là, j'ai vu des patelles. Mais pas les patelles sèches, blanches, comme on les voit d'habitude. C'était des patelles qui étaient au fond de l'eau, qui avaient des couleurs absolument magnifiques. C'était comme la palette de Van Gogh qui s'animait sous mes yeux. À cette seconde, je me suis passionné pour les patelles.
Or, c'était déjà un aspect un peu artistique, en fait.
Peut-être bien, oui. Peut-être. Et à l'Institut de géographie, on devait remettre un diplôme en maîtrise pour obtenir effectivement le diplôme. Et je cherchais donc une bonne raison pour trouver un sujet intéressant et pour m'occuper de mes patelles, de mes chers patelles, pour lesquelles j'avais fait des monceaux de photographies, de macro-photographies. Et j'ai donc choisi un sujet d'étude, un sujet de rapport, qui s'appelait « Rôle des patelles dans la corrosion des littoraux français ». Parce que ces petites bêtes, ça mange les roches, ça décèle les grains de sable, les grains de quartz plutôt, qui constituent par exemple les granites. Et j'ai commencé à étudier ces patelles pendant une année entière, pour essayer de comprendre leur vie, leur mode de vie, de connaître leur tradition en quelque sorte. Et donc pendant 11 mois exactement, avec des patelles que j'avais numérotées avec de la peinture indélébile, j'avais une trentaine de patelles, je les ai suivies deux fois par mois, c'était au Bois de Cise, en Picardie, et j'ai appris beaucoup de choses sur les patelles, ce qui bien entendu ne rendait, c'était sans aucune utilité, mais c'était très joli.
Et vous aviez quel âge donc à ce moment-là?
Je devais avoir 20 ans à peu près. Et puis le 11e mois, je suis arrivé, j'avais oublié quelque chose, donc c'était des patelles, c'était un troupeau de patelles en quelque sorte, que je suivais attentivement depuis 11 mois. Je les connaissais toutes. Je savais que le numéro 2 avait une sexualité différente du numéro 5. Je savais que le numéro 7 était... Voilà. Oui. Donc c'était... Et que leur trajet pour aller paître le lichen était différent et spécifique sur chaque animal. Je les connaissais toutes. Et le 11e mois, je suis arrivé. Et les touristes avaient débarqué. Et quand je suis arrivé sur mon terrain d'étude, toutes les coquilles de mes patelles étaient vides. Les touristes avaient mangé mes patelles. Ils avaient vu des coquilles numérotées. Oui. Ils avaient quand même mangé mes patelles, sauf trois qui étaient peureusement cachées sous les fucus. Mais ça ne servait plus à rien.
Oui. Ça a été un drame. Mais on est encore en train, à ce moment-là, le microscope électronique.
Ah non, non, on est loin encore.
Vous êtes encore très loin.
Je suis encore loin.
Voilà. Vous avez donc 20 ans et vous vous intéressez à la sexologie des patelles.
Oui. Et alors, surtout en faculté. Donc, j'obtiens effectivement ma maîtrise de géographie physique. Mais j'ai envie de retourner faire de la sédimentologie, de la géologie. Et j'ai gardé d'excellents rapports avec le professeur Lafont, qui lui est à la faculté des sciences.
Oui.
Donc j'ai un pied à la faculté des lettres, j'ai pas encore un pied à la faculté des sciences, j'ai un pied qui est nulle part en fait.
Oui, oui, oui.
Et je retourne voir le professeur Lafont, je lui dis écoutez, j'ai envie de faire de la sédimentologie, seulement voilà, je suis à la faculté des lettres. Et le professeur Lafont me dit, vous avez de la chance, je viens juste d'obtenir des crédits, et à l'époque les crédits c'était très rare, je viens juste d'obtenir des crédits pour étudier des sables qui ont été collectés...
On est dans les années 60
Là on est en 1970.
70, oui, oui.
Et j'ai récolté des crédits pour équiper mon laboratoire, pour faire l'étude de ces sables provenant du fond de la Manche, pour qu'on essaye de connaître l'histoire géologique et sédimentaire du fond de la Manche. Le problème, c'est que personne ne sait lire les grains de sable. ce serait drôlement intéressant si on réussissait à le faire, ou du moins à essayer de le faire. Est-ce que ça vous intéresse ? Ma foi, ça m'intéressait tout à fait. Et j'ai donc commencé à travailler à la faculté des sciences. Donc j'étais à mi-temps à la faculté des lettres et à la mi-temps à la faculté des sciences. Et je disposais à l'époque d'un microscope optique, c'est-à-dire le microscope classique. Des microscopes qui grossissent jusqu'à 2000 fois. Or, le microscope avait toujours été une passion pour moi. Parce que lorsque j'avais 10 ans, mes parents m'avaient offert un microscope. Un microscope qui grossissait pas plus de 100 fois. Mais à partir de l'âge de 10 ans, je commençais à éplucher tout ce qu'il y avait à la maison. Ça pouvait être tout ce qu'il y avait, le sel, le poivre, les poils du chien, n'importe quoi. Et puis j'allais dans la forêt, je récoltais des plumes d'oiseaux, des cadavres de petits mammifères, de souris, etc. Donc j'avais toujours été passionné par le microscope. Et là, on m'a donné un qui grossissait 2000 fois. J'étais le plus heureux, j'étais le plus heureux des hommes. Voilà.
Oui. Et alors, quand est-ce que vous rencontrez le fameux microscope électronique qui va donc changer votre vie ?
C'est-à-dire qu'au laboratoire, il y avait des milliers et des milliers d'échantillons qui étaient emprisonnés dans des petits cubes. Et j'essayais de découvrir s'il y avait des relations entre les grains selon les endroits où ils étaient prélevés, ou non. Et je ne réussissais pas. J'accumulais les graphiques, j'accumulais les tableaux, les calculs, et je n'aboutissais à rien. Les grains de sable, ils ne voulaient pas parler. Et un jour, un étudiant de la faculté, un peu plus âgé que moi, qui terminait sa thèse de troisième cycle, me dit, mais pourquoi pour tes grains de sable, tu n'utilises pas le MEB ? Alors, je dis, le MEB ? Qu'est-ce que c'est cette bête-là ? Alors le MEB, c'est le microscope électronique à balayage. Alors c'est un appareil qui permet des grandissements en continu de 10 fois à 200 000 fois.
Ah, pour vous donner... Voilà. Il existait depuis combien de temps il était découvert depuis combien de temps ?
Le microscope électronique à balayage avait été découvert par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été complètement abandonné. On n'en voyait pas l'utilité. Il a été redécouvert par des chercheurs de l'Institut de Cambridge, en Angleterre, qui ont retrouvé les plans des Allemands. Et les premiers microscopes à balayage, donc les MEB, on va dire MEB parce que c'est plus rapide,
oui,
ont été mis sur le marché en 1968-69. Donc j'étais un des premiers, on me propose, en fait, d'être un des premiers à utiliser...
Au début des années 70.
Voilà, en 70.
Donc un des premiers à l'utiliser en France.
À utiliser le microscope à balayage. Bon, pour vous donner une idée, un grandissement de simplement 10 000 fois, un grain de sable fait 10 fois la hauteur de la tour Eiffel.
Oui.
Ça représente une
surface... Et vous pouvez arriver à 20 000 fois, vous.
Ah, on pouvait monter encore davantage.
Oui. Donc, vous pouvez faire 600-700 mètres votre grain de sable.
Bien sûr, ça dépend de la taille du grain de sable.
Oui, tout à fait.
Mais c'était des grandissements considérables.
Oui.
Une bactérie donc, qui fait un millième de millimètre de long... en réalité,
oui.
Et là, fait 2-3 centimètres.
Donc, du jour au lendemain, le grain de sable qui était silencieux jusqu'ici vous parle.
Ben, au début, il ne parle pas parce que, d'abord, je ne connais pas l'appareil.
Oui.
Je
ne
sais pas à quoi ça ressemble. Et la première fois où je vais au BRGM, donc Bureau des Recherches Géologiques et Minières d'Orléans, je vois l'appareil, mais l'appareil prenait une pièce qui devait faire 5 mètres de long sur 5 de large. C'était
oui.
un monument.
Oui. Et comment est-ce que vous aviez accès quand vous ouvrez la porte?
Grâce justement à cet étudiant qui terminait sa thèse,
oui.
et qui lui avait obtenu des crédits pour pouvoir prendre des photographies. Lui, il étudiait les argiles.
Oui.
Et donc, les argiles, c'est vraiment très très fin. Et pour étudier ces argiles, il avait obtenu des crédits pour avoir quelques heures de microscope électronique.
Parce qu'il fallait louer le microscope.
Ça coûtait une fortune.
Ah, tout à fait.
Oui, ça coûtait. Moi, je me souviens, après, quand j'ai commencé à travailler vraiment au MEB,
oui.
une journée de MEB me coûtait un mois de salaire.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui, on peut dire, de 15 000 francs, 20 000 francs.
À l'époque, oui.
Tout à fait, oui. Oui.
Ben non, parce que je n'étais pas très bien payé. J'étais chercheur contractuel. Hein, donc j'étais vraiment au SMIG. Oui, enfin, disons que c'était un SMIG. Un SMIG amélioré.
L'équivalent de 7-8 000 francs aujourd'hui,
voilà.
Ou par là à peu près.
Voilà, quelque chose comme ça.
Et donc ça, c'était payé par les gens qui vous faisaient faire des recherches.
Pour l'instant, rien ne me payait. Personne ne me payait rien. Personne ne me payait rien.
Oui.
Il fallait que je trouve que je trouve des crédits, mais c'était plus tard, parce que d'abord,
oui.
il fallait que je réussisse. Il fallait que je réussisse à faire quelque chose avec ce microscope. Or, je n'avais qu'une heure, la première fois.
Oui.
Donc, j'avais pris trois grains très particulier. J'avais prélevé un grain dans une rivière, j'avais prélevé un grain sur une plage marine, oui. Et j'avais prélevé un grain glaciaire, si je me souviens bien.
Oui.
Bon, quatre. Il y avait aussi un grain provenant d'un granit altéré. Puis je commence à prendre des photos et on a découvert des paysages absolument fabuleux, mais que personne ne pouvait analyser. À partir de ce moment-là, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais, enfin que je réussissais à avoir pour réussir à avoir des heures au microscope électronique.
Oui.
Je suis devenu surveillant dans un lycée, au lycée Montaigne, si je me souviens bien. Je me suis mis marchand de timbres d'occasion, marchand de voitures d'occasion. Je ne connais rien en voiture, mais ça n'a aucune espèce d'importance.
Oui. Tout ça par passion pour le microscope électronique, pour pouvoir payer les quelques heures de...
Oui, je suis devenu guide pour touristes à Paris. Guide by night et guide de jour, et donc ça me permettait de payer quelques heures de temps à autre. Finalement, au bout d'un an à peu près, donc là on arrive en 71, j'avais récolté à peu près 600 clichés et je ne comprenais toujours rien. Alors un jour, j'ai étalé tous mes clichés dans la salle à manger et puis j'ai essayé de les classer selon l'aspect qu'elles avaient.
Oui.
Effectivement, ça commençait à donner des familles intéressantes. Il y avait des flous qui se ressemblaient. C'était très difficile des aspects géométriques, il y avait des ressemblances, etc. Mais je n'avais toujours rien compris. N'empêche que ces éléments semblaient être spécifiques de certains environnements. Et je ne comprenais toujours pas comment ils apparaissaient. Et puis un jour, comme ça, l'idée est venue. Dans les bandes dessinées, souvent, on représente un flash.
Oui, tout à fait.
Une lampe ou une bougie.
Oui, oui. Et vous avez
une
bougie qui s'est allumée.
Oui, en une seconde, fraction de seconde, oui. J'ai compris, c'était tout simple. C'était simplement une question de concentration de silice dissoute. Alors, peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que la concentration.
Alors, déjà, on montre le silice.
Alors, les grains de sable, dans la majorité des cas, ce sont des quartz.
Oui.
Les quartz, c'est de la silice cristallisée. Alors la silice, c'est un élément simple, c'est comme le carbone, c'est comme l'aluminium, le quartz est composé d'un atome de silicium et de deux atomes d'oxygène.
Oui.
Et ça fait une molécule, hein, des atomes qui se collent ensemble, ça donne une molécule. Et le quartz est donc une molécule, le quartz minéral est une molécule avec un silicium et deux oxygènes.
Et donc la différence entre un grain de sable et l'autre, c'est le nombre de... c'est le pourcentage de silicium qu'il y a...
Non du tout, c'est les grains de sable sont des quartz, donc c'est du SiO2.
Oui. Oui.
Voilà. Donc c'est les cristaux qu'on connaît, là, qui sont, quand ils sont intacts, qui sont bien formés,
bipyramides. Comment faites-vous la différence entre un grain de sable et un autre?
Ah ben c'est là que ça commence.
Voilà, et c'est là que la concentration de silicium...
La concentration de silicium, parce que... voilà, alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une concentration... d'un liquide en un élément donné. Si on prend une tasse de café, on met un sucre. Et le sucre va fondre. Le sucre va fondre parce que le café est sous-saturé en sucre. Mais si on met 20 morceaux de sucre dans la tasse de café, beaucoup de sucre restera au fond parce que le café sera devenu sur-saturé en sucre. Il sera même devenu parfois tellement sur-saturé qu'il va reprécipiter du sucre. C'est exactement la même chose pour un grain de sable. Si on le met dans une eau qui est sous-saturée en silice dissoute, comme l'eau de mer par exemple, l'eau de mer va manger le silicium. Donc le grain de sable va maigrir. Si on le met dans une rivière, au contraire, dans un étang, où l'eau est sur-saturée en silice, eh bien le grain de sable va grossir. Voilà, en résumé, c'est ça.
Oui.
Ça, c'est le premier grand aspect, première grande loi.
Donc déjà, vous pouvez définir si un grain de sable vient de la mer ou vient d'une rivière.
Déjà, c'était
le premier point.
Et puis ensuite, quelque chose de tout simple, c'est évidemment l'évolution, le grain de sable qui évolue dans un environnement aquatique, ou dans un environnement éolien d'ailleurs, il est transporté, donc il va acquérir des traces de choc. La morphologie des traces de choc ne sera pas la même si le choc se produit en milieu éolien où il n'y a pas de liquide qui fasse tampon, ou au contraire dans un milieu aquatique où il y aura un tampon, c'est-à-dire que les chocs seront moins brutaux. Par contre, ils seront d'autant plus grands que l'énergie du milieu sera plus élevé. C'est-à-dire que les traces n'auront pas la même densité ni la même morphologie sur une plage de haute énergie ou sur une petite baie tranquille. Donc c'était tout simple.
Oui.
C'était tout simple. Alors si à ça on ajoute le rôle des micro-organismes, c'était des micro-organismes qui mangent les sables,
oui.
Ben, j'avais pratiquement toutes les explications.
Et
à partir de ce moment-là,
d'où provenait déjà tel ou tel grain de sable.
Ça y est. Il n'y avait plus qu'à ce moment-là qu'à les classer en fonction de ces différents critères. C'est quelque chose qui a été fait en un mois. Et à partir de ce moment-là, j'avais isolé 250 caractères de base, un alphabet en quelque sorte, grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain. Et en fin de parcours, il était possible de dire, par exemple, ce grain de sable, pas un autre, celui-là, là. Il est né dans un massif granitique. Après ça, il était transporté dans un torrent, par exemple. Il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie. Et puis, de là, il est passé dans un estuaire. Les estuaires, c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées. De là, il est parti sur le bord d'une plage. Il y a eu une tempête de sable qui l'a envoyé sur une dune. De la dune, il est redescendu sur la plage. Il y a eu une grande marée qui l'a entraîné au fond de la mer. Et puis, ainsi de suite, on peut retracer toute l'histoire du grain.
Et déjà, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordre pratique?
Et à partir de ce moment-là,
d'où provenait déjà tel ou tel grain de sable?
Ça y est. Il n'y avait plus qu'à ce moment-là qu'à les classer en fonction de ces différents critères. C'est quelque chose qui a été fait en un mois. Et à partir de ce moment-là, j'avais isolé 250 caractères de base, un alphabet en quelque sorte, grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain. Et en fin de parcours, il était possible de dire, par exemple, ce grain de sable, pas un autre, celui-là, là, il est né dans un massif granitique. Après ça, il était transporté dans un torrent, par exemple. Il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie. Et puis, de là, il est passé dans un estuaire. Les estuaires, c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées. De là, il est parti sur le bord d'une plage. Il y a eu une tempête de sable qui l'a envoyé sur une dune. De la dune, il est redescendu sur la plage. Il y a eu une grande marée qui l'a entraîné au fond de la mer, et puis ainsi de suite, on peut retracer toute l'histoire du grain.
Et déjà, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordre pratique? Ouais, c'est bon.
Je n'avais envisagé à l'époque aucune application pratique. J'étais passionné par ce que je voyais, j'étais passionné par l'aspect esthétique également des photographies, puisque ça, évidemment la radio on ne peut pas les voir, mais c'est fabuleux. Les diatomées, c'est des algues microscopiques, ces micro-organismes, etc., ont des morphologies qui sont fabuleuses, magnifiques.
Donc c'était surtout esthétique au début. C'était l'aspect artistique.
Oui, mais plus en fait la curiosité, parce que j'avais quand même réussi à déchiffrer
le savoir. Oui.
À déchiffrer
le premier à savoir dans ce domaine-là finalement.
Et puis quand même, on cherchait ça depuis 1886, puisque le premier à avoir fait des recherches sur les grains de sable était un Anglais qui s'appelait Sorby. Et on cherchait la mémoire des grains de sable depuis 1886. Et ça y est.
Depuis près d'un siècle.
Oui, et on avait enfin trouvé. Comment lire
la mémoire des grains de sable.
En 1970.
Oui. Et c'est vous qui l'aviez trouvé, donc, à ce moment-là.
C'est moi qui l'avais trouvé.
Voilà.
Et donc, j'ai fait ma première communication à l'Académie des sciences. Donc, j'ai 24 ans, en 71. Et puis, une autre immédiatement après.
Vous faites une communication, donc, à l'Académie des sciences, mais à ce moment-là, au niveau des diplômes, vous n'avez pas de titre scientifique.
Non, c'est là que je commence à devenir un peu aberrant.
Oui.
Parce qu'en fait, je suis étudiant. En faculté des lettres, où je viens d'obtenir ma maîtrise.
Oui, déjà dérangeant, pour tout dire.
Et puis en fait, j'ai fait des publications à l'Académie des sciences.
Oui.
Et je suis chercheur à la faculté des sciences.
C'est sûr.
Et ça, en France, on n'aime pas les littéraires qui sont aussi scientifiques ou les scientifiques.
Même les gens
aussi...
qui, en général, ne passent pas par le chemin de Monsieur Tout-le-Monde et qui dépassent un petit peu. France, on ne peut pas dépasser de toute manière.
Non, ben, j'en sais quelque chose.
Je ne veux voir qu'une tête.
Exactement. Et alors là, je décide, puisque ma vocation, c'est vraiment la recherche. Le professeur Lafont me dit qu'il est prêt à diriger ma thèse de science.
Oui.
Alors que normalement, je dois faire une thèse de lettres.
Oui.
Et je demande à la faculté des sciences une dérogation pour rentrer à la faculté des sciences en tant qu'étudiant au niveau du diplôme d'études approfondies, donc le troisième cycle.
Oui.
Ce qui n'a jamais été obtenu. Ça ne s'est jamais fait.
Vous êtes le premier à le demander.
Et je suis le premier à l'avoir, surtout.
Et vous l'avez.
Et je l'ai. Et je rentre donc à la faculté des sciences comme étudiant de DEA, diplôme d'études approfondies, pour préparer ma thèse.
C'est un beau début, quand même, et rapide.
Alors oui, mais c'est le début des embêtements, parce que à partir de ce moment-là, pour la plupart des géologues, je ne suis qu'un géographe, et pour la plupart des géographes, je ne suis qu'un géologue.
Oui, bon, donc, vous êtes déjà hors des sentiers.
Hors des sentiers.
Alors, la suite.
Là arrive ma thèse, et la thèse, ben, pour ma thèse, j'ai besoin de beaucoup d'heures de microscope électronique.
Oui.
Or, je n'ai pas d'argent. Et un jour, je vais à la faculté pour... Je suis dans ma voiture, et je vais pour dire tout simplement que j'arrête ma thèse. Je suis obligé de travailler, je suis obligé de quitter la faculté.
Parce que vous n'avez pas d'argent.
Parce que j'ai pas d'argent. Et j'allume la radio, et par hasard... Je dis toujours que le hasard n'existe pas.
Hein, oui.
Par hasard, à la radio, on annonce que la Fondation de la Vocation, créée par M. Bleustein-Blanchet, elle a pour but, cette fondation a pour but d'aider des personnes qui n'ont pas les moyens de réaliser leur rêve, leur vocation.
Oui.
Il y a des milliers de candidats chaque année.
Elle était ancienne ou débutante à ce moment-là?
La Fondation, on est en 72, là.
Oui.
Elle fêtait son 20e anniversaire.
Ah d'accord, donc vous n'êtes pas des premiers dans ce domaine.
Ah non.
Et donc vous êtes présenté à cette fondation?
Ben, je me présente en me disant, de toute façon, il y a des milliers, je crois que c'était 8000 candidatures en moyenne, pour 20 élus, donc c'est aucune chance, quoi.
Oui. Et avec recommandation ou comme
ah
ça?
Ah non, j'ai jamais eu de recommandation de la part de personne. Ça, alors...
le professeur qui dirigeait votre thèse aurait pu vous présenter quand même.
Mais il y a des rapports qui sont faits sur le sérieux, par exemple,
sur le sérieux de
recherche. Évidemment, oui.
Oui.
Mais sans aucune recommandation, sans aucun passe-droit, sans aucun.
Alors.
Et puis j'ai la chance d'être un des heureux élus. Et je touche à l'époque 10 000 francs.
Oui.
Ce qui est beaucoup. Et les 10 000 francs, je les dépense en 5 jours de microscope électronique.
Voilà. 5 jours de microscope électronique.
Oui,
ça vous a permis ces 5 jours d'aller au
microscope. Et ça m'a permis de terminer ma thèse.
Oui. C'était vraiment de justesse,
hein. C'était de justesse. Et ensuite, ben, il s'agit de trouver du travail. Alors moi, mon chemin, il est théoriquement tout tracé. C'est-à-dire, moi, c'est rentré comme chercheur au CNRS. Donc, je présente ma candidature. J'ai bien sûr ma thèse de troisième cycle à ce moment-là.
Troisième cycle, c'est ça, voilà, oui. Donc vous avez le titre de...
Docteur en sédimentologie.
Docteur en sédimentologie,
oui.
Très bien.
Et donc, je pose une
candidature. C'est important en France d'avoir un titre.
Oui, c'est très important. C'est très important.
Oui.
Pour être massacré, c'est très important. Mais enfin, c'est très important d'avoir un titre pour faire une glorieuse carrière universitaire, à condition de suivre soigneusement les sentiers battus.
D'accord. Et comme vous
dites, je commençais très très mal déjà.
C'était déjà.
C'était très bien. Et je présente ma candidature au CNRS, qui est immédiatement refusée par les mandarins, avec le commentaire suivant que je trouve assez extraordinaire. C'est on ne peut pas accepter la candidature de Le Ribot. Parce que nous, on ne voit pas les mêmes choses que lui, il voit sur les photos. Autrement dit, les vieux crabes ne voyaient rien sur les photos que je leur montrais. Et donc, par conséquent, ils ne pouvaient pas m'accepter.
Autrement dit, c'est un novateur, il apporte quelque chose, il a découvert quelque chose, donc il n'a rien à faire dans un centre de recherche français.
Voilà, il faut le laisser dehors.
Tout à fait, c'est bien typique.
Ma foi, oui, et alors, je ne sais toujours pas quoi faire. On me refuse au CNRS, je songe évidemment une fois de plus à trouver un autre métier, mais je ne sais pas non plus très bien lequel. Et alors, se produit alors encore un événement heureux, la Total, compagnie française des pétroles, donc, qui s'est récemment rendue célèbre avec un bateau...
tout à fait.
Vient d'acheter un MEB. Pourquoi ont-ils acheté un MEB? Ils ont acheté un MEB parce que c'est un très gros laboratoire pétrolier, et parce que c'est moderne...
Un microscope à balayage électronique, parce que nous sommes sur une émission de radio, et que certains peuvent très bien venir d'ouvrir l'antenne.
Ah oui, donc voilà, un microscope électronique à balayage.
Son premier contact avec l'appareil qui a changé sa vie, le microscope électronique à balayage.
Voilà, MEB en abrévié, à l'organisation.
Voilà.
Et donc, ils ont acheté ce microscope. Pourquoi? Ben, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, parce que personne ne sait utiliser cet engin. Mais comme il y a beaucoup d'émirs qui viennent visiter le laboratoire, il faut bien leur montrer que la compagnie a l'appareil le plus moderne possible. Mais personne ne sait quoi en faire. Et un ingénieur du laboratoire a lu mes publications de l'Académie des sciences et dit au patron, il y a quelqu'un peut-être qui saurait en faire quelque chose. et qui pourrait nous être utile, parce que quand on fait des forages pétroliers, on a besoin de connaître l'histoire des sables qui sont dessous, à des milliers de mètres de profondeur.
Oui.
Et personne ne sait le lire non plus. Quand il y a des fossiles, on peut lire l'histoire, mais quand il n'y a pas de fossiles, quand c'est juste du sable, personne ne savait lire. Et donc il décide, il considère que la méthode est trop belle, c'est plus possible. On ne peut pas réussir des trucs pareils. Et donc on m'envoie un professeur de Suisse, le professeur Bernard Kubler, spécialiste de sédimentologie, avec mission de tester ma méthode. Donc il me donne des échantillons, 3 ou 4 échantillons, et puis il me dit, ben voilà, puis faites les analyses, et puis donnez-moi les réponses, il n'y a que moi...
Les provenances de ces grains de sable.
Oui, il n'y a que moi qui sais d'où ils proviennent, puisque c'est moi-même qui les ai prélevés.
Oui.
Il n'y a aucun document les concernant. Puis au bout de 15 jours, je lui donne ma réponse, et alors là, la réaction de Kubler est de téléphoner immédiatement...
Mais expliquez-nous, donc, quels étaient ces grains de sable, d'où est-ce qu'ils venaient,
très honnêtement, j'en ai vu des dizaines de milliers. Ceux-là en particulier. Vraiment, je ne m'en souviens pas.
Oui, vous avez trouvé la
ben, oui, alors justement, alors, il téléphone à la Compagnie française des pétroles, et il dit, le Rivaux a réussi, or, c'est impossible. Alors, soit il a vraiment inventé une méthode révolutionnaire, et il faut l'embaucher tout de suite...
Oui.
Soit il a réussi à découvrir la provenance des échantillons que moi seul connaissais, et en ce cas c'est un espion de génie, et il faut absolument l'embaucher aussi. Et donc je suis embauché malgré l'avis du psychologue, parce que je suis obligé de passer une visite.
Ah oui, bien sûr, oui.
Et le psychologue, qui finalement était un bon psychologue, il y en a,
oui,
avait vivement déconseillé mon embauche, sous prétexte que j'étais ingérable, que j'étais incapable de m'adapter à une structure industrielle. Il avait donc parfaitement raison.
Oui, mais enfin, vous avez quand même réussi. Alors, la suite de votre parcours avec le pétrole.
Mais je vais rester 8 ans faire marcher le microscope électronique. Et je vais m'ennuyer considérablement, parce qu'effectivement, je ne suis pas fait du tout pour ce genre de choses.
Oui.
Ceci dit, moi, ça me permet, le samedi, dimanche, le soir, de continuer mes recherches au microscope électronique.
Avec le même microscope.
Oui. Et j'ai l'idée, à ce moment-là, que l'avenir, c'est la microanalyse. Et mon rêve, c'est de créer un laboratoire d'État équipé de microscopes électroniques, qui serait à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, les industriels, les particuliers, les chercheurs, n'importe qui. Enfin, un laboratoire qui, pour une fois, serait un laboratoire d'État utile.
Oui.
Et mes démarches vont durer 7 années auprès de tous les ministères, sauf le ministère des anciens combattants, je crois. C'est les seuls que j'ai pas.
Oui.
Et la réponse, exemple, je vais voir le ministère de l'Industrie et je leur présente mon projet. Le ministère de l'Industrie dit, oui, mais attention, il y a de la recherche là-dedans. Donc ça ne concerne pas. Nous, c'est industrie pure. Donc je dis, oui, mais attendez, c'est industrie et recherche. Ah oui, non, mais il y a de la recherche, donc c'est pas notre rôle. Allez voir le ministère de la Recherche. Au ministère de la Recherche, on me dit, ah oui, c'est une bonne idée, mais attention, il y a des applications industrielles. Nous, c'est la recherche pure.
Oui.
Et ça dure 7 ans.
Oui, 7 ans de blocage.
7 ans de blocage.
Le petit fonctionnaire à la française.
Oui. Et bon, en fin de parcours, j'écris... en avril 81, si je me souviens bien, ou 80, j'écris au président de la République, Giscard d'Estaing à l'époque, une lettre pas particulièrement diplomatique. Et là, miracle, il y a des réponses. Ah, j'ai pas de réponse de Giscard d'Estaing, mais lui, il donne ça
à son cabinet. Quelqu'un l'a lu, qui s'y est quand même adressé.
Oui, et qui a adressé en fait l'ordre à l'université de Bordeaux de réunir ce qu'ils ont appelé une commission des sages. Commission des sages, c'est-à-dire c'est des mandarins qui se réunissent pour décider de votre sort, mais en dehors de votre présence. Donc là, le but était de savoir si vraiment il fallait créer ce centre de microanalyse dont je rêvais et pour lequel je me battais depuis 7 ans. Alors, la commission se réunit donc le 8 décembre 1980. Et les conclusions sont très claires. La méthode de Le Ribot, elle est excellente. Celui qui pose problème, c'est Le Ribot. Parce qu'il ne connaît pas les usages universitaires et qu'il n'est pas diplomate. Ça, j'en conviens volontiers. Et donc, j'attends la décision, bien sûr, de la réunion des sages. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2001. Elle n'a toujours pas donné sa conclusion, la commission des sages, depuis 1980.
Alors, ce sont des sages particulièrement sages.
Ce sont des sages très sages. Plusieurs sont morts depuis, d'ailleurs, forcément avec le temps.
C'est la sagesse. C'est pas bonne pour la santé.
Non, sans doute pas. Et à ce moment-là, j'en ai assez, et je décide de créer mon laboratoire, le CARM. Le Centre d'application et de recherche en microscopie électronique, dont on a parlé beaucoup, beaucoup dans la presse dans les 12 années qui vont suivre, et donc laboratoire spécialisé en microscopie électronique, que je crée à La Teste, à côté de Bordeaux.
Oui, et alors à ce moment-là, vous commencez à travailler avec la police, la gendarmerie, les juges d'instruction.
Mais je travaillais pour des industriels, et ou alors même pour des organismes d'État. Mes premiers gros clients ont été IBM pour l'étude des puces électroniques,
oui,
et le commissariat à l'énergie atomique, parce que la bombe atomique française a parfois des états d'âme. Alors il fallait regarder un petit peu les différents composants, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des rétroviseurs de chars d'assaut, il y avait les moteurs d'avion, des carrosseries de automobiles, des anus artificiels, des calculs rénaux, et puis il y a les obus français qui n'explosent pas aussi. Ça, c'est très mauvais pour les clients. Il y a des gens qui nous achètent des obus et paf, les obus n'explosent pas.
Et vous pouviez découvrir les raisons pour lesquelles les obus n'explosaient pas.
Bien sûr. Et je regrette, alors ça, j'ai le remords, et je le conserverai toujours, d'avoir collaboré à ce genre de choses.
Or, les obus peuvent aussi servir à parfois à défendre de nobles causes. Il y a tous les camps ne sont pas...
Oui.
Le camp plus mauvais.
Oui, enfin, je ne suis pas persuadé quand même.
Voilà. Et puis justement, vous êtes passé pour des causes plus nobles après, puisque vous êtes venu à vous intéresser donc aux criminels, à la recherche des preuves.
Et finalement, je ne suis pas sûr non plus que ce soit des causes plus nobles. Je ne suis pas sûr d'avoir servi une bonne cause, là, en l'occurrence.
Si, quand il s'agit de meurtre, quand même, quelles sont les affaires importantes dont vous avez eu
à l'origine? La DST, donc je travaille dans les domaines, à l'époque, dans les domaines de défense nationale.
Oui, oui.
Et alors, la DST, bien sûr, vient regarder le laboratoire pour voir d'abord si... Parce que nous courons constamment le risque d'espionnage, oui, industriel ou militaire.
Oui.
Donc ils viennent donner des conseils pour la protection des locaux. Et puis, ils ont des gros problèmes. La DST a des gros problèmes avec les laboratoires de police. Et la première affaire qui m'est confiée, c'est la DST m'apporte ce qui semble être un cachet d'aspirine. Ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont arrêté deux agents de l'Est, qu'ils ont, comme ils disent pudiquement, neutralisés, et ils se demandent ce que c'est que ces cachets d'aspirine. Alors les labos de police ont donné une réponse. C'est de l'aspirine. Bon. Mais ils ne sont quand même pas persuadés, la DST, que ce soit exact, parce qu'ils ont des années de déconvenues avec les labos de police, qui, il faut le savoir, à l'époque, n'ont pas évolué depuis la date de leur création, c'est-à-dire 1943. Il n'y a pas une seule innovation.
C'était déjà le fameux professeur Cicaldi à l'époque.
Oui. Et donc, ils me demandent de vérifier si cette aspirine est bien d'aspirine. Et ben, deux ou trois jours après, je donne la réponse. C'est pas du tout de l'aspirine. C'est un produit qui permet de rédiger des lettres avec une écriture, je sais plus comment ça s'appelle, une écriture
sympathique.
Alors, ils sont très contents. Ils me donnent une autre affaire, d'une sorte d'empoisonnement d'un de leurs agents. Et puis finalement, ils sont tellement contents qu'ils finissent par faire passer l'information de l'existence du laboratoire auprès de juges d'instruction. Parce que moi, j'ai l'idée à ce moment-là d'appliquer la microanalyse à la criminalistique, c'est-à-dire l'étude technique des affaires criminelles. Autrement dit, l'analyse des échantillons trouvés sur les lieux d'un crime. Et il se trouve qu'à la gendarmerie, à ce moment-là, il y a des juges d'instruction qui sont en formation. Et deux d'entre eux ont deux affaires qui sont impossibles à résoudre. Ou plus exactement, ils ont les coupables tout trouvés. Mais ils sont pas, ce sont des juges honnêtes, parce qu'il y en a. Et donc, ce sont des juges qui veulent avoir la certitude absolue que ces gens-là sont bien coupables. Et ça permet, mais dans les deux mois qui suivent, d'éviter deux affaires judiciaires.
Deux erreurs judiciaires
qui étaient inévitables sans l'intervention de la microanalyse. Et à partir de ce moment-là, bah, ça va être la boule de neige. Hein.
Et vous avez dû déjà gêner à ce moment-là donc certaines personnes, parce que les gens qui n'avaient pas trouvé, eux, ont quand même dû quelque part être gênés aux entournures.
Ah ben, les
vous avez dû vous créer vos premiers ennemis.
Les bâtons de police ont commencé à ne pas m'aimer du tout. Et moi, je ne souhaitais qu'une chose, c'était aider l'État. J'avais ce laboratoire magnifique qui fonctionnait parfaitement bien. En 1985, on avait déjà traité des centaines d'affaires criminelles avec un pourcentage de réussite de 96%.
Mais vous aviez votre propre microscope ou vous alliez travailler...
Non, j'en avais quatre.
Vous en aviez quatre?
Oui, quatre microscopes.
Et combien, au prix où ça coûtait, comment avez-vous fait pour vous équiper?
Je me suis endetté personnellement.
Et combien coûtait chaque à ce moment-là?
Le plus cher
qu'au début quand même.
Le plus cher que j'avais coûtait 2 700 000 francs.
Bon là, et vous en aviez 4 alors?
Et le moins cher coûtait 400 000 francs.
400 000 francs, oui.
Enfin, l'ensemble faisait une somme assez rondelette. Oui. Et à ce moment-là, j'ai la bêtise en plus de me porter caution personnelle, bien entendu, des achats du laboratoire.
Oui. Et alors donc, vous continuez, je recherche toujours quelques affaires importantes que vous auriez traitées par la suite, de celles qui sont connues de notre public.
Oh ben, il y a l'affaire des disparus de Mourmelon, l'affaire Chanal. Il y a l'affaire Weber.
Vous pouvez nous dire un mot de l'affaire Chanal, de ce que vous avez découvert plus particulièrement?
Ben, l'affaire Chanal... Je suis désolé. Je rappelle l'histoire où...
Oui, très rapidement, c'était l'histoire de cet adjudant qui avait enlevé des jeunes appelés dans un camping-car.
Ben on
ne savait pas si c'était lui ou si c'était pas lui, c'est ça, voilà.
Ben, à Mourmelon, bon, l'année, je crois que c'est 87. En 1987, mais pendant 15 ans, il y a à peu près 7 ou 8 appelés qui disparaissent du camp de Mourmelon.
Oui.
Et l'armée affirme qu'il s'agit là de déserteurs.
Oui.
Ben, jusqu'au jour où on retrouve un cadavre. Alors c'est quand même rare qu'un cadavre déserte.
C'est une méthode de désertion assez peu courante.
Assez peu courante. Surtout que certains étaient à une semaine de leur libération. On ne voit pas très bien pourquoi ils auraient déserté. Tous bien notés, tous.
Oui.
Et puis, on trouve, alors ça c'est une affaire qui apparemment est connexe, on trouve un jour le cadavre d'un jeune Irlandais, enterré d'une façon très particulière, ce qu'on appelle la méthode des commandos pour enterrer leur parachute ou pour enterrer des corps.
Oui.
Au bas d'un talus, on fait tomber la terre, etc. Et puis, un an exactement après la découverte du corps de l'Irlandais, des gendarmes qui font une patrouille voient un camping-car Volkswagen arrêté dans la forêt. Et là, l'adjudant qui commande la patrouille a vraiment le flair du gendarme. Il dit c'est pas normal, alors qu'il n'y a aucune raison en fait de s'inquiéter particulièrement.
Oui.
Il s'approche du combi Volkswagen, regarde dedans, il a l'impression de voir un corps caché sous une couverture. Ça lui paraît bizarre, il frappe à la porte, personne ne répond, il essaye d'ouvrir la porte, rien. Et à ce moment-là sort quelqu'un d'un bois avec une pelle à la main. C'est un nommé Chanal. Et l'adjudant, le gendarmerie, donc demande ses papiers à Chanal, qui dit être adjudant-chef, instructeur, au camp de Mourmelon. Et à ce moment-là, l'adjudant de gendarmerie, Mourmelon, c'est là qu'il est disparu, et il demande à Chanal l'autorisation de regarder dans le camping-car. Et sous la couverture, il y a bel et bien un jeune homme, et Chanal lui dit, ah oui, mais attaché avec des chaînes. Et Chanal dit, ah ben oui, mais ça c'est parce que ça c'est nos fantasmes sexuels à nous, ça il est tout à fait volontaire. Et l'autre a pas tellement l'air content, il a même l'air de protester, mais il proteste en hongrois. Alors, et les gendarmes ne comprennent pas le hongrois, évidemment. Ils emmènent tout le monde au poste, on fait venir un interprète, et le jeune homme raconte qu'il a été pris en stop par Chanal, qui est un Hercule, hein, c'est un sportif accompli, qui l'a ligoté, qui l'a violé, qui a filmé ses exploits. Alors il y a la bande en plus. Donc Chanal, pour cette affaire, est condamné à une dizaine d'années de prison, dont il fera 7 ans, ou 13 ans de prison, dont il fera 7 ans. Mais le même gendarme a l'idée que peut-être l'appel, l'autostop, parce que le jeune Irlandais était un autostoppeur, il va peut-être bien qu'il y ait une connexion.
Avec les autres affaires.
Oui. Alors on avait demandé au labo de police un an avant de regarder la terre ou de l'endroit où avait été enterré le jeune Irlandais pour savoir s'ils allaient en tirer quelque chose. Ils n'en avaient rien tiré.
Et là, le juge me demande, moi, de faire la connexion, de faire une comparaison entre la terre trouvée sur la pelle,
oui,
et la terre trouvée à l'endroit où on enterrait un Trevor O'Keefe. Et okay, grâce à l'exoscopie des quartz, justement,
oui, justement.
Ben, j'établis une connexion parfaite. C'est-à-dire que la pelle est allée à l'endroit où Trevor, le jeune Irlandais, a été enterré.
Oui.
Je dis bien sûr pas que Chanal tenait la pelle, mais
sa pelle est allée.
Donc c'est la première connexion. Et les laboratoires de police, on leur demande une contre-expertise, dans laquelle ils disent que l'exoscopie n'existe pas. Voilà. Et l'affaire sera, finalement, maintenant, 15 ans après,
oui,
on a la preuve que j'avais raison.
Oui. Mais sur le coup, ça n'a pas servi à grand-chose, alors, finalement, malgré le...
Bah, surtout pas, non. Mais en plus, moi, c'est moi qui ai fait les prélèvements dans le minibus de Chanal. J'ai
oui,
trouvé 600 cheveux.
Oui.
Et j'ai dit, je peux faire les analyses de cheveux pour faire des comparaisons. Il y en a qui ont l'air différentes. Pour
oui,
voir s'il n'y a pas des cheveux qui proviennent...
Des cadavres.
Des cadavres.
Ils ont disparu.
Il suffit d'aller dans la maison où ils habitaient et de faire des prélèvements de cheveux et de faire les comparaisons.
Tout à fait, oui.
Et le juge dit, non, ça coûterait trop cher. Bon. Comme je suis pas loin de l'endroit où Chanal a son appartement de service,
oui,
je passe un week-end là, à fouiller le minibus, j'ai dit, mais ce serait bien d'aller fouiller l'appartement de Chanal. Parce que je suis là, j'ai les lasers, j'ai tout.
Oui, oui, oui.
Et là, c'est trop tard, l'armée a enlevé et brûlé tout ce qu'il y avait à l'intérieur.
Ah là là, oui,
voilà.
C'est vraiment dommage. Alors, revenons-en à la suite. Donc, vous commencez à vous faire des ennemis.
Un peu.
Et puis, vient donc le moment où commencent vos premiers ennuis.
C'est-à-dire qu'au début, il s'est passé quelque chose dont je n'avais pas conscience. D'abord, j'ai proposé à l'État mon laboratoire. C'est-à-dire que j'ai proposé gratuitement mon laboratoire, mes documents, mes recherches, les microscopes.
Oui.
Je l'ai proposé gratuitement.
Oui. À charge de l'État de vous verser un salaire, normalement, pour continuer
en même temps,
de
moi, moi, j'avais d'autres recherches à faire. Moi, j'ai toujours eu des idées de recherche, des nouvelles idées.
Donc, vous leur donniez quelques pieds, même pas d'avoir une profession, de vous en occuper.
Non. Ah, si ça les intéressait, oui, de
oui,
donner des cours, de superviser
voilà,
les...
Voilà.
Mais c'était même pas une
mais
condition.
Vous vouliez simplement que votre œuvre serve à quelque chose, bah, serve à bien public.
À la police scientifique.
Tout à fait, oui. Et là, il refuse.
Non, il me demande un rapport. Il me demande un rapport sur tout ce que je fais, mes applications, enfin, tout, un gros rapport,
oui, oui,
tout ce qu'on fait au laboratoire.
Un fonctionnaire ne peut pas travailler sans paperasse en France, surtout.
Non, ben là surtout, ça va leur être très utile. Parce que 2 mois après, Jox annonce le lancement de son programme de rénovation de la police scientifique.
Grâce à vos documents.
Mes brevets, il y a tout.
Oui, oui.
Tout ce que je proposais. Sauf que le laboratoire que moi je proposais gratuitement, l'État français, Jox va faire dépenser aux contribuables 170 millions de francs.
C'est-à-dire 17 milliards de centimes.
Mais je ne sais plus, moi je parle
je
en livre.
Oui, non, je crois que c'est ça, oui, oui.
170 oui, millions de francs.
De francs, une somme énorme.
Lourd.
Tout à fait, oui. Oui, oui. Une somme énorme, effectivement. Que ça va coûter aux contribuables, alors que vous leur donniez gratuitement le même laboratoire, mais ils l'ont refusé.
Ils m'ont copié.
Et pour quelle raison ça leur semblait plus moral, parce que ce n'était pas plus rentable.
Mais parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité, d'abord.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ensuite, il y a le gros problème que je représentais. Moi, on n'a jamais pu m'acheter. Et j'ai toujours été incorruptible.
On découvrirait peut-être, si on cherchait, que quelques personnes, sur ces 170 millions, ont réussi à prendre quelque chose, alors que sur quelque chose de gratuit, il est difficile à un ministre de se graisser la patte.
Ah, mais c'est éprouvé, puisque Michèle Rudler, directrice des 5 laboratoires parisiens, et le professeur David, directeur du laboratoire de Lyon, après
oui,
10 ans, ont été virés pour enrichissement personnel.
Ah d'accord, tout à fait, oui.
Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes.
Voilà, voilà. Alors que vous, au contraire, vous leur faisiez un cadeau, mais vous, on n'en a pas voulu du cadeau.
Ah non, voilà. non.
Mais ça ne leur suffisait pas, puisque si j'ai bien compris, par la suite, parce que j'ai quand même lu vos livres, par la suite, on vous a quand même confisqué votre laboratoire.
Ah oui, mais ça c'était pour une bonne raison, parce que j'étais toujours expert, cours de cassation.
Oui.
Seulement, moi, je faisais des expertises objectives, réellement objectives.
Oui.
Et qu'est-ce que vous voulez, quand l'État est impliqué dans une affaire, qu'elle soit accidentelle ou qu'elle soit volontaire, si les expertises sont confiées à un laboratoire privé, indépendant, c'est bien embêtant, surtout quand des gens comme moi osent dire la vérité, ce que j'ai dit dans plusieurs affaires, comme l'affaire de la maison des têtes, etc.
Oui.
C'est-à-dire que si vous avez une affaire d'État, qui est analysé par des experts d'État, sur du matériel d'État, dans un laboratoire d'État. Qu'est-ce que vous croyez que les conclusions vont être?
Oui, évidemment, il faudra faire plaisir à l'État.
Oui. Alors, ça, c'est si c'est un laboratoire de police.
Oui.
Maintenant, bien sûr, un avocat pourrait demander une contre-expertise, puisqu'il y a un laboratoire de gendarmerie maintenant qui a été créé avec mon matériel, puisqu'ils ont racheté aux enchères mon matériel. Oui. Eh bien, la contre-expertise des laboratoires d'État va être donnée à un laboratoire d'État.
Oui.
C'est-à-dire, c'est le grand gala au profit des organisateurs du gala.
Tout à fait, oui. Donc ça, le moyen de s'en sortir...
Il fallait m'éliminer.
Il fallait vous éliminer. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'on a fait pour vous éliminer?
Oh, c'était très rapide. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, enfin moins de 6 mois, les juges d'instruction ne m'ont plus passé d'affaires.
Donc ils ont reçu les ordres de
évidemment.
Bien sûr,
les trésoriers payeurs généraux n'avaient plus d'argent non plus pour payer mes factures.
Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, ils vous devaient de l'argent, en fait.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Ça se montait à combien, ce que...
6 millions de francs.
6 millions de francs qu'ils ne vous ont pas payé, en fait.
Oui.
Toujours pas aujourd'hui, je suppose.
Mais c'est moi qui étais condamné à les payer, en plus, après.
Ça, racontez-nous ça.
C'est-à-dire que le laboratoire a coulé.
Oui. Donc le laboratoire, on vous coupe vos commandes.
Oui, le laboratoire est coulé.
Le laboratoire coule.
Il disparaît.
Voilà, on vous doit de l'argent.
Voilà.
6 millions de francs.
Sans compter toutes les découvertes et tout ce que j'ai apporté. Alors, on me pique mon brevet, puisque j'ai déposé des brevets aussi, de petits appareils qu'on utilise sur les lieux de crime.
Des petits systèmes collants.
Voilà.
Voilà, pour prendre sur les vêtements les
particules,
cheveux,
les résidus,
etc.
Oui, je dépose un brevet. Et j'ai la surprise un jour de découvrir que la police les utilise. Et j'ai l'imprudence de porter plainte.
Oui, puisqu'on vous a
en mai 80...
volé votre brevet.
Ah oui, en mai 91, je porte plainte. Oui.
Donc vous avez payé l'État français en déposant un brevet pour qu'il garantisse votre invention. Et qui est-ce qui vous vole votre invention? C'est l'État français qui vous a demandé de l'argent pour la protéger.
Tout à fait. C'est mon avocat... Encore aujourd'hui, ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai découvert il y a un an à peu près, l'avocat de l'époque, Gilbert Collard.
Le célèbre Gilbert Collard.
Gilbert Collard ne fait rien. Se fait payer, par contre.
Se fait payer, oui.
Mais ne fait rien. Et quand j'étais en prison, on en parlera plus tard, j'ai eu la surprise de voir une émission où Gilbert Collard défendait la police et défendait la rénovation de la police.
Voilà. Ça veut dire que on peut se poser toutes les questions, mais
n'allons
pas trop loin, parce que Gilbert Collard, étant un spécialiste des droits, pourrait nous attaquer.
Ah non, c'est moi qui attaque, c'est déjà fait.
Ah, vous l'avez attaqué quand même.
C'est la semaine dernière. Donc,
c'est très bien, dans ce cas, on peut toujours parler d'une plainte que vous avez déposée.
Ah oui, il peut toujours s'adresser à mon avocat, il n'y a pas de problème.
Tout à fait.
Non. Mais ça va encore plus loin, parce que donc, il copie mes tamponnoirs. J'ai les preuves, je dépose plainte. Il y a des émissions de télévision qui sont faites là-dessus, à la radio, partout.
Oui. Alors, donc, un jour, vous vous trouvez en faillite?
Ah ben, oui, tout à fait, oui.
Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là?
Ben, d'abord, je suis condamné à payer les dettes du laboratoire. Ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'argent.
Oui, alors que, donc, l'État qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer combien à vous?
À peu près pareil.
À peu près les mêmes sommes, c'est ça?
Oui, voilà, de mémoire. Quoi.
Donc l'État qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer 6 millions.
Quelque chose comme ça.
Voilà. Oui. Et puis donc vous perdez votre laboratoire.
Alors je perds mon laboratoire, mais je ne perds pas mon laboratoire. Parce que j'ai réussi à faire des économies. Quand je travaillais au labo, j'avais fait des emprunts pour acheter une maison.
Oui.
Et donc ma maison est estimée à l'époque à peu près 1 million de francs, dont j'ai payé à peu près les 3/4.
Oui.
Madame, on me saisit ma maison et on la met aux enchères. Elle est vendue 250 000 francs.
Je vois.
Ensuite, le matériel du laboratoire, j'avais créé une succursale en Bretagne.
Oui. Il devait y avoir pour plus d'un milliard de centimes, pour plus de...
Non, là il y avait un peu moins, mais disons 5 millions de francs à peu près. 5 millions de francs. Le laboratoire en Bretagne, la succursale en Bretagne.
Oui, la succursale, parce que sur l'ensemble, vous m'avez dit que vous possédiez plusieurs matériels.
Ah ben, il y avait la même chose. En Bretagne, il y avait aussi un microscope électronique.
Tout à fait. Oui, d'accord. Donc c'est un seul qui vous est pris alors de laboratoire.
Ah non, tout le reste est vendu aux enchères.
Le reste est vendu.
Mais là, la gendarmerie réagit après.
Oui.
Et quand Carme Bretagne donc est mis aux enchères en vente, il y a des enchères extrêmement feutrées, tellement feutrées que personne n'en entend parler. Et la gendarmerie vient avec deux camions pour enlever le matériel qu'ils achètent pour 220 000 francs.
220 000 voilà. francs, il y en avait pour combien là?
À peu près 5 millions.
5 millions de francs pour 220 000 francs.
Ce qui leur permet de créer leur laboratoire.
Leur propre laboratoire, donc vous êtes...
L'IRCGN, Institut de recherche, dit de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Voilà, donc en plus, finalement, j'ai fourni le matériel du laboratoire de la Gendarmerie. Voilà.
Oui, ben, c'est effectivement une triste fin. Pour quelqu'un qui a apporté autant à la police scientifique. Mais je crois savoir, pour avoir lu vos livres, qu'en plus, il leur restait à savoir s'en servir, et vous avez relevé pas mal d'erreurs, en fait.
Ah, ça, c'est une catastrophe.
C'était les pieds nickelés dans votre laboratoire.
C'est une catastrophe, et ça, c'est aussi, ça va faire aussi, ça, d'ailleurs, l'objet... Enfin, c'est en cours aussi, hein, l'objet d'une plainte en Cour européenne de justice, parce qu'actuellement, les justiciables français, ce qui n'est plus mon cas, hein, moi, je suis plus français, hein, ils sont entre les mains de clowns. Qui n'ont aucune notion de la police scientifique. Et je ne l'invente même pas, parce qu'il suffit de regarder des émissions télévisées comme celles qui sont passées l'année dernière, et puis cette année d'ailleurs encore, sur Antenne 2, que j'ai filmé, que j'ai enregistré sur un magnétoscope.
Oui.
Je suis désolé, des fois je commence à oublier le français. J'ai pris des photos, etc. Et les erreurs sont là. Et je les ai publiées dans un petit bouquin que j'ai appelé Le Livre Noir des Clowns en Bleu. En fait, c'est extrêmement dangereux. Moi, je serais chez vous là-bas, hein, je serais très très inquiet si j'étais impliqué dans une affaire criminelle où je serais innocent.
Non, mais de toute façon, les Français sont très très inquiets en ce qui concerne le fonctionnement de leur justice. Pour des raisons comme la vôtre, pour des affaires comme d'autres affaires dont on parle en ce moment, comme l'affaire Beljanski.
Beljanski, qui était un ami.
Vous connaissez Beljanski en
plus? Oui, je l'avais rencontré. Oh, pas souvent, mais peut-être 3 ou 4 fois, oui.
Quand même, oui. Ah non, c'est vrai qu'un de mes amis, un grand avocat qui était aussi un homme politique, dit que le prototype de la stupidité consiste à dire « je fais confiance à la justice de mon pays quand on est français aujourd'hui ».
Mais
les choses ont bien changé par rapport à ce qu'était la justice française il y a simplement 50 ans.
Mais moi c'est bien pire, moi j'étais un collaborateur.
De la justice,
de la justice.
Qui vous a traité de cette manière.
Alors j'ai des remords.
Oui.
J'ai collaboré avec ces institutions pendant 12 ans.
Oui.
Et ça me dégoûte.
Excusez-moi, à ce moment-là, du bon travail, est-ce qu'on peut dire
Oui.
Voilà. Alors, on peut considérer que la partie du reportage donc, qui concerne l'aspect donc création de la police scientifique, là, vous nous avez dit tout ce que vous pouviez nous dire.
Ah non. Non, non, parce qu'il y a un autre... Il y a la phase finale. Si vous voulez, là, on a aplati mon laboratoire.
Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait donc vous faire de plus? Qu'est-ce qu'on va encore apprendre?
Alors, police et gendarmerie se disent, bon, le CARM... Laminé, il n'existe plus, le ribot va nous fiche la paix.
Oui. Alors vous créez un autre laboratoire.
Je crée une petite société d'expertise.
Oui.
Qui s'appelle le ribot expertise. Et avec une secrétaire, vous voyez, c'est vraiment pas le... Oui. Ça a changé, parce qu'au CARM, il y avait 33 ingénieurs.
Hein, 33 ingénieurs, c'est une grosse structure quand même, oui.
Ah oui. Et là, quand, dans la structure d'expertise, quand je vais faire des analyses, alors là, pour le coup, je suis obligé de louer encore, de recommencer à louer des journées de microscope électronique à l'université. Je recommence ce que je faisais 15 ans plus tôt.
Avec beaucoup de courage.
Oui, et d'enthousiasme.
Déjà, vous n'ayez pas eu envie de quitter la France. Il y avait comme de quoi être dégoûté.
Il y avait de quoi être dégoûté, surtout que régulièrement me vient l'idée...
Mais vous persistez quand même.
Oui, et en 81, les Américains m'avaient proposé de créer mon laboratoire tel que je le souhaitais, avec des crédits quasiment illimités aux États-Unis. Et j'avais refusé.
Vous avez refusé par amour de la France?
Oui.
Par naïveté?
Fallait-il que je sois bête? Oui, tout à fait.
Eh oui.
Et j'ai refusé.
Et vous avez été bien mal récompensé.
Mais remarquez, c'est des expériences intéressantes.
Ah oui.
Donc je crée cette petite société d'expertise. Et puis... Comme il y avait eu des milliers d'articles de fait sur le CARM, sur moi, l'émission télévisée, la radio, etc. Donc j'étais connu.
Oui, je crois même que des gens venaient du monde entier.
Ah, du monde entier, oui.
Et que l'État français leur faisait visiter les laboratoires parfois à votre absence, en faisant croire que c'était leur laboratoire alors que c'était le vôtre.
Mais pire que ça, même quand j'étais là, mais je ne savais pas qu'ils présentaient avant ou après comme étant les laboratoires de la police.
Voilà, alors que c'était les vôtres, en fait.
Alors que c'était le mien, oui.
C'était vraiment déjà des escrocs.
Ça douche aurait été des escrocs, mais alors là, effectivement, en fait, c'est presque risible, quoi. Parce que c'est tellement risible
avec
que...
Avec le temps, mais sur l'instant, d'ailleurs, il y a eu comme des suites catastrophiques.
J'ai eu des suites catastrophiques, mais face à l'histoire, si c'était vrai, ça se saurait, quoi. Mais oui, l'ennui, c'est que moi, quand j'écris un bouquin, je prouve.
les choses, et puis qu'ensuite, il y a ces milliers d'articles qui existent, qui sont là, je ne les ai pas imprimés hier dans ma chambre.
Un bouquin, c'est bien, mais le faire diffuser comme il mériterait de l'être, c'est beaucoup plus difficile.
Oh, ben là, il n'y a pas eu beaucoup d'éditeurs volontaires.
Oui. Enfin, vous avez déjà vendu, je crois, 10 000 exemplaires.
10 000 exemplaires, oui.
Duquel le beau livre,
parce que vous premier, le prix d'une découverte.
Le prix d'une découverte, qui raconte à peu près cette histoire. Vous avez
quatre autres histoires, oui. Et puis, mais les autres qui sont plus récents, donc les autres sont sur bonne voie également.
Oui, également.
Alors, je monte cette petite société d'expertise, vraiment sans aucun moyen. Et je veux faire ouvrir, par exemple, le téléphone.
Oui.
Il faut bien que j'ai le téléphone.
Oui.
Alors là, le comment vous appelez le téléphone
le fax
non, la société du téléphone. En France.
France Télécom.
France Télécom.
France Télécom. Vous avez déjà oublié notre pays.
Ah oui, mais de plus en plus. Alors.
On peut vous comprendre.
Il y a des choses comme ça qui... Bon. Il vient me voir, il me dit, non, pas possible. Vous nous devez 60 000 francs. Comment je veux 60 000 francs non. Si, note du Carme. Le Carme, c'est pas moi, c'est la société. Ah oui, non, mais il y a toujours 60 000 francs. Donc, vous aurez le téléphone si vous payez les notes du Carme.
Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, j'ai emprunté.
Et vous avez payé les notes du Carme?
Forcément, sinon, je n'avais pas le téléphone.
Ah oui.
Donc, la même chose pour l'EDF. Ça, je me souviens, l'EDF.
L'EDF aussi.
Tout. Et puis, je réussis à monter ce laboratoire. Et alors là, malheureusement.
Mais pendant ce temps-là, l'État vous devait toujours 6 millions. Et qu'est-ce
mais le Carme avait disparu. Le Carme avait disparu, il ne devait plus rien. C'est une opération à la tapis, ça.
Ah, tout à fait, mais sauf que c'est l'État qui est dans le rôle de tapis.
Oui.
Voilà. Donc vous ne pouvez plus, à l'heure actuelle, réclamer vos 6 millions, puisqu'il était dû au Carme. Alors vous, on vous a pris...
Ah non, c'était pas moi, effectivement, c'était le Carme. Oui.
On vous a quand même pris sur vos propres biens.
Ben, on n'a pas dû me prendre 6 millions, puisque j'avais rien. Non. On m'a pris ma maison.
On vous a pris votre maison.
Voilà.
D'accord. Ça, on a pu vous le prendre.
Oui.
Et maintenant, ce qu'on devait au Carme, par contre, on ne peut plus le rendre, parce que le Carme n'existe plus. Ah, c'est d'une logique extraordinaire, ça, quand même.
Mais c'est très logique.
Finalement. Ah oui, tout à fait.
C'est une logique à la Kafka, mais c'est une logique.
À la Kafka.
Et alors, des avocats, des familles de victimes me confient des affaires dans lesquelles l'État est impliqué. Des journalistes, aussi. Et je me retrouve en un an à traiter l'affaire de la Jonque, l'histoire du missile perdu qui percute une maison en plein centre de Toulon.
Oui.
L'affaire de la maison des têtes,
oui.
Donc percutée par un missile en plein centre de Toulon, l'affaire de la Jonque, touchée par un objet sous-marin au large de Brest,
oui.
L'affaire de la fameuse liste de Bérégovoy, vous vous souvenez, quand il avait tendu un papier à l'Assemblée nationale en disant « je connais des scandales », etc. On me demande, il y avait un photographe de je ne sais plus quel journal, qui prend une photo de très loin et qu'on me demande d'agrandir et d'essayer de déchiffrer.
Oui.
Et je déchiffre.
Déchiffré des secrets d'État, comme ça, c'est vraiment
quand même. Oui.
Et il y avait des noms sur la liste.
Ah oui, j'ai trouvé certains noms, pas tous, il y en avait 6. J'en ai identifié que 3. Il y avait Léotard. Ah oui, ça a été publié dans Paris Match.
Il y avait Léotard.
C'était publié dans Paris Match.
Oui. Il y avait Léotard, il y avait.
Oh, j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai les documents ici.
Les documents ici, c'est intéressant, oui.
L'auteur, c'était pour une maison, un terrain
à Fréjus. J'étais maire de Fréjus.
À Fréjus, c'est ça.
Oui.
L'affaire Seznec.
L'affaire Seznec, oui.
Et tout ça en même temps, en un an.
Oui.
Alors là, je commence vraiment à être très, très agaçant. Alors là, je suis vraiment plus du tout payé, alors que là, j'ai vraiment plus rien, quoi.
Oui, oui.
Et là, je coule pour...
Non, mais quand ce sont des journalistes, ils vous payent, là, par exemple...
Il y a quelques juges qui aussi continuent
à travailler avec vous.
Oui. Ah non, journaliste, c'est pas de problème. Mais avocat, je
par contre, vous n'êtes pas payé, dès que c'est la justice, dès que...
Non, et puis il y a des familles de victimes qui n'ont pas d'argent, parce que eux aussi, ces histoires-là, les ont ruinées.
Ah, tout à fait.
Alors, je vais quand même pas les faire payer, donc je... Il y a beaucoup de cas aussi où je travaille gratuitement.
Et donc, finalement, vous tenez combien de temps de cette manière?
Bon, un an.
Un an, et vous coulez à nouveau.
Je coule à nouveau, on me recoupe l'électricité, et je n'ai plus rien. Je n'ai vraiment plus rien. Ma voiture est saisie, enfin, strictement rien. Et en fait, c'est ma mère qui m'héberge.
Oui.
Voilà. C'est...
Donc, vous êtes revenu à quel âge, là, à peu près, à la situation que vous aviez à 20 ans, quoi?
Oh, non, parce que je travaillais depuis l'âge de 18 ans. Non, je reviens à l'âge de 12 ans, parce que je travaillais à partir de l'âge de 17 ans.
Ah, d'accord. Oui. Et vous trouvez, j'ai réfugié chez votre mère, ne possédant plus rien.
Oui.
Mais toujours en France.
Oui, hélas, oui.
Voilà, ça, Jean-Paul, c'est la première partie de l'entretien avec Loïc Le Ribaud dans sa maison irlandaise, où il raconte ses mésaventures tout à fait extraordinaires, d'ailleurs, avec l'État français dans ses différentes représentations administratives, policières, gendarmiques, politiques, etc.
Oui, alors la deuxième partie.
Et il y a la deuxième partie.
La deuxième partie, donc ça consiste dans le médicament extraordinaire qu'il a découvert.
Voilà, alors je trouve que c'était intéressant de présenter cette première partie, qui est d'abord parce qu'on voit bien la genèse d'un génie, en quelque sorte. Comment ce personnage, parti de rien, qui est un jeune étudiant en lettres, va devenir une des sommités. Un des inventeurs de la police scientifique en France.
Mais ce qu'on voit surtout, c'est le gâchis du génie.
Et alors, voilà.
Les années perdues avec des paperasses, des années perdues devant les jalousies, les années perdues devant les petits escrocs, quand même. Et on retrouve ce qu'on a trouvé pour l'affaire Beljanski, on retrouve même pour Montagnier. Regardez Montagnier, le co-découvreur du sida. Montagnier, le co-découvreur du sida, un beau jour, un fonctionnaire découvre, monsieur Montagnier, mais attendez, il y a un petit problème, là. Mais vous avez l'âge de la retraite, monsieur Montagnier. Alors, faut partir, monsieur Montagnier. Alors, monsieur Montagnier part aux USA, où on lui offre des hectares de bureaux, tout ce qu'il demande, comprenez. Mais en France, pour les petits fonctionnaires, monsieur Montagnier n'avait plus l'âge. Et en fait, c'est vraiment, ce pays est le pays du gâchis, dans tous les domaines. Et l'histoire, le Ribaud, c'est l'histoire d'un terrible gâchis.
Moi, j'attribue ça à l'effet pervers de la Révolution. C'est-à-dire que, avant la Révolution, l'État royal, l'État monarchique, avait le respect de l'intelligence, de la créativité, du talent, parce que ça illustrait le roi. À partir du moment où l'État monarchique a été remplacé par la racaille républicaine, et par l'idée d'égalitarisme a fait que le fonctionnaire, l'homme de pouvoir, c'est-à-dire le fonctionnaire, pas tous les fonctionnaires, mais certains fonctionnaires, hommes de pouvoir, savent que le seul moyen d'être au même niveau que les autres, comme eux sont incapables de s'élever, c'est d'abaisser les autres. Et c'est donc la politique du lit de Procuste. Comme on n'est pas capable d'étirer son intelligence et sa créativité jusqu'à la dimension d'un Loïc Le Ribaud, d'un Beljanski, d'un Montagnier, alors on le réduit.
Voilà. Mais bien sûr, c'est la politique où aucune tête ne doit dépasser, aucun génie. Dans le domaine de la recherche, on crée des dogmes et on se fait le gardien du dogme, on empêche toute personne de progresser, c'est la même chose. C'est le pays de l'immobilité à tout point de vue, c'est le pays du gâchis dans tous les domaines.
Il faudrait bien changer tout ça.
Oui, il faudrait changer tout ça. Ben, ça va être l'occasion dans quelques jours. Là.
Non, on pourrait l'espérer, mais vous savez.
Mais il y a une dimension quand même dans cette affaire qui dépasse un petit peu la simple médiocrité. C'est l'acharnement crapuleux, mafieux. Parce qu'on voit bien qu'un homme comme Le Ribaud a été... on a cherché à le détruire systématiquement de façon... je pense que si c'était suicidé, il y a des gens qui ont eu des primes.
Ça a été fait. Je pense que ça viendra maintenant quand on en reparlera pour la suite. Là, ça a été fait. Ça a été fait. Il se retrouve par la suite emprisonné. On le met dans des sous-sols, des culs de bassou.
Il en parlera. Je voudrais rester avant la coupure technique sur la première partie qu'on vient d'entendre, la première partie d'interview qu'on vient d'entendre, où on voit que, par exemple, l'État qui lui doit de l'argent, ça c'est quand même prodigieux, l'État qui lui doit 6 millions pour des travaux qu'il a facturés et qu'il a fait, lui dit... on ne peut pas vous payer puisque votre société n'existe pas. En revanche, quand il fait appel à un service d'État, par exemple l'EDF ou les télécommunications, en disant installez-moi le téléphone ou installez-moi l'électricité, on lui dit oui, mais quand vous aurez payé la dette. Alors il répond mais la société n'existe plus. Ah oui, mais ça.
Non, mais la société n'existe plus quand l'État doit rembourser les dettes, mais elle existe encore quand lui doit rembourser.
Là, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que c'est pas des gens qui vont prendre du fric pour eux. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui font ça, ou les employés de l'EDF, ou les employés du téléphone qui font ça, c'est pas des gens qui vont s'enrichir par ce biais-là. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de haine de l'intelligence, de la
médiocre,
créativité.
La haine du médiocre pour celui qui réussit, pour celui qui a créé. Non, mais il y a surtout dans ce cas, malgré tout, d'énormes jalousies. Parce que quand c'est un petit peu l'affaire Beljanski encore, quand un chercheur trouve... mais il interrompt le pactole pour tous ceux qui sont payés pour chercher,
quand même.
Et puis surtout, il fait l'illustration de l'incapacité des autres. Or, lui, il passait son temps à trouver dans le domaine de la police scientifique ce que les autres cherchaient, mais ne trouvaient jamais. Et à chaque fois qu'il trouvait quelque chose, lui tout seul, il montrait l'incapacité de dizaines, de centaines de fonctionnaires payés grassement et qui étaient incapables d'arriver à quelque chose.
Mais là, par exemple, ce qu'il raconte,
sur
l'affaire Chenal, il est évident que dans la situation actuelle, dans la jurisprudence actuelle, les parents des supposées victimes de présumés coupables Chenal pourraient demander à être indemnisés pour le fait qu'un magistrat instructeur ait dit « Non, on ne va pas faire les recherches tendant à prouver la responsabilité du suspect parce que ça coûterait trop cher et parce que ça ferait trop de tintouin. » Enfin, ce qu'il a raconté sur la possibilité qu'il avait d'étudier les cheveux qu'il avait trouvés dans la voiture, les débris de... enfin, les boues, les sables qu'il avait trouvés, tout ça montre que si on l'avait laissé faire, l'affaire Chenal serait réglée depuis longtemps. Or,
oui, mais parce qu'au niveau
l'affaire
de la justice,
n'est pas réglée, elle a coûté des milliards en frais de justice.
Certainement, mais au niveau de la justice aussi, les juges, tout le monde a pris l'habitude d'une certaine incompétence. Et on est quelque part effrayé quand arrive quelqu'un d'efficace qui dit « Mais attendez, celui-là, je vais l'apporter tout de suite. » Et quelque part, on a tellement l'habitude du non-résultat qu'on hésite.
Alors Jean-Paul, je te propose nous interrompre là pendant quelques minutes pour la coupure technique traditionnelle. Et puis, la deuxième partie, on va raconter alors l'affaire de ce produit qui s'appelle le G5,
qui a été découvert par le
Ribot et qui a provoqué un nouveau drame dans sa vie, un drame encore plus lourd que celui qu'il a connu avec son laboratoire.
C'est un multiple personnage. Nous allons rencontrer un deuxième Le Ribot, totalement différent du premier, simplement toujours aussi génial et gênant toujours les médiocres.
Et un esprit de résistance qui est extraordinaire.
Et un homme charmant, plein d'humour, s'amusant à travers ses ennuis. C'est passionnant.
Bien, donc coupure technique, et juste après la coupure technique, la suite des passionnantes aventures de Loïc Le Ribot au pays des ronds de cuir, avec Jean-Paul Leperlier comme conteur.
Émission préenregistrée le 28 mars 2002 et diffusée pour la première fois mercredi 17 avril 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Donc Jean-Paul Leperlier, on va poursuivre le récit, ton entretien avec Loïc Le Ribot. Je rappelle que cette émission est enregistrée pour des raisons techniques puisque le studio n'est pas accessible en ce moment. Loïc Le Ribot, on a vu la première partie de sa vie qui est quand même extraordinaire, personnage qui invente en quelque sorte la police scientifique moderne. Avec l'aide du microscope électronique et d'autres techniques, qui est dépouillé de ses découvertes par des méthodes sur lesquelles on ne va pas revenir, qu'on croit abattu et qui se redresse d'une façon stupéfiante en devenant un novateur en matière médicale, en matière de traitement, Ce qu'il raconte est tellement extraordinaire que on est en droit quand même de se dire, est-ce que cet homme-là ne nous emmène pas en bateau? Est-ce que par hasard, ce qu'il raconte ne serait pas purement et simplement inventé? Parce que il y a un proverbe qui dit « à beau mentir qui vient de loin », mais on pourrait également dire « à beau mentir qui s'en va loin ». Parce qu'il nous dit « j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais ce n'est pas très facile de s'assurer.
Alors, en ce qui concerne la police scientifique, tout de même, là, c'est vérifié, parce qu'il a été célèbre dans le monde entier, on est visité de partout, il est passé je ne sais combien de fois à la télévision quand même, donc de ce côté-là, c'est certain. Voilà. Mais pour le reste, on aurait pu penser qu'aigri, il a un petit peu exagéré les choses.
Oui, bon, puis étant la vedette de la police scientifique, il attrape la grosse tête, ensuite il est un peu déçu que ça ne marche pas.
Cela dit, quand on est face au bonhomme, on réalise tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de tellement brillant que tout devient vraisemblable. Là, il y a des gens comme ça, il faut quelques secondes devant eux et on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe, un courant qui passe. Bon, voilà.
Alors on en est au moment où il se casse la figure,
cela dit, je voudrais donc expliquer pour répondre à cette question qu'effectivement, quand même en tant qu'ancien journaliste de Minute, j'ai vérifié, j'ai fait 22 heures de bateau pour aller le rencontrer là-bas en Irlande, j'ai traversé l'Irlande en voiture, et puis là sur place, je lui dis, c'est bien gentil, j'aimerais rencontrer des malades guéris, parce que vous en avez forcément autour de vous. Alors je précise quand même que c'est pas la première fois que j'enquête sur ce genre de choses. Dans l'affaire Belzhansky, quand on demande à un malade, on est à la position de quelqu'un qui est sous un pommier, qui veut cueillir une pomme et qui en prend 200 sur la tête. Si vous voulez quelqu'un qui témoigne, vous avez tous les témoignages du monde avec leurs adresses, etc. Mais je me rappelle d'avoir travaillé sur des gens qui guérissaient le sida depuis la Suisse, alors de très loin, c'était parfait. Puis quand est arrivé le moment, je prends l'avion demain pour être en Suisse, ou ma voiture, il n'y avait plus personne. Là, brusquement, ils peuvent pas, ils savent pas. Voilà. Dans le cas de Ribault, je me suis dit comment ça va marcher. Alors sur place, là-bas en Irlande, il m'a emmené visiter les familles de malades, il m'a emmené visiter un tas de gens. Effectivement, il y avait des résultats étonnants, donc avec ce produit dont il parlera quand même, voilà, mais qui est excellent pour la peau, pour cicatriser. Donc il y avait des gens qui avaient été brûlés, il y avait des gens qui avaient des gros problèmes et qui avaient été guéris par ce produit. Donc j'ai vérifié ça sur place, et le vice du journaliste de Minute, je m'étais rendu compte dans des histoires qu'il nous racontera, qu'à travers ses périples, lorsqu'il a dû s'enfuir de France, il avait séjourné quelque temps dans l'île de Jersey, dans un hôtel qui s'appelait le Dolphin Hotel, quelque part sur une plage près de Palmiers, ça j'ai dit comme tout Jersey. Bon. Et je me suis dit, je vais passer quelques jours dans cet hôtel où il a séjourné un an. Et là, il n'a rien prévu, je vais interroger tout le monde. Et là, je suis allé dans cet hôtel.
Ça, tu ne l'avais pas prévenu.
Je lui ai dit que je partais pour le faire. Mais il n'a pas le choix, il ne pouvait pas me dire non, bon, comprenez, mais ce n'était pas prévu au départ quand je faisais l'enquête, ça m'est venu après quand il m'a expliqué ça. Donc je lui ai dit, je pars pour Jersey, donnez-moi quand même quelques adresses, à quel hôtel êtes-vous descendu? Il m'a expliqué, c'est pas un tricheur, ça s'est fait sans tricher vis-à-vis de lui, j'avais vraiment pas l'impression d'être face à un truqueur. Bon, et je suis dans cet hôtel, et là, effectivement, alors on m'a dit, on fait rencontrer des gens qu'ils connaissent très bien. Alors c'est un pêcheur qui me dit, écoutez, je me suis coupé, j'avais l'habitude de me couper, le jour où j'ai mis ces produits, ça s'est cicatrisé tout seul sans même faire de croûte. Il y avait là-bas une personne qui s'était très très gravement brûlé le dos, il fallait lui greffer la peau des fesses sur le dos, elle s'est fait vaporiser son produit sur le dos, et il n'y a pas eu besoin de greffe, il n'y a même pas eu de cicatrice. Bon, des choses vraiment étonnantes, voilà. Bon. Et puis, alors, un tas de gens qui avaient des problèmes d'articulation, voilà. Et en cherchant comme ça, je suis tombé sur le chef de la police locale. Là-bas, ça s'appelle un connétable, parce que c'est une ville un peu française, cette région-là, quand même. Un connétable.
Mais c'est constable,
je peux donner le nom, bien sûr, tout à fait, qui s'appelle le connétable Franck Ami, qui habite à Grouville, voilà, dans les îles Normandes, donc Jersey, voilà. Et ce policier, un des plus importants de l'île, me dit, écoutez, c'est vrai. J'ai vu arriver un jour un espèce de naïf qui vient me dire, écoutez, voilà, je viens me livrer à votre conscience. Je suis recherché au plan international pour exercice illégal de la guérison. Mais je suis également le créateur de la police scientifique. Alors lui s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet Olivrius? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais il dit, écoutez, vous, est-ce que vous êtes à tel hôtel? Vous pouvez pas partir bien loin de toute façon, je vais vérifier. Et puis il vérifie. Il se rend compte qu'effectivement, en ce qui concerne en tout cas la police scientifique, c'était bien vrai. Alors il dit, comment ce type-là peut-il être recherché partout? Eh ben, il interroge le Ribault, qui dit, moi je soigne notamment le dos, par exemple, les articulations. J'ai un produit qui reconstitue les cartilages, voilà. Lui dit, écoutez, ça tombe bien, parce que moi depuis 16 ans, j'ai du mal quand je sors de mon lit le matin, quelquefois je sors à quatre pattes si j'ai trop travaillé la veille. On n'a jamais pu me soigner mon dos, alors là écoutez, si vous me faites marcher, je vous garantis que personne ne va vous ennuyer dans cette île. Et donc, Franck Ami, le connétable, me raconte à moi, me dit, écoutez, c'est invraisemblable, j'avais tout essayé. J'ai utilisé ça à peu près pendant 3 mois. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais eu une seule sensation venant de mon dos, plus rien. J'en ai gardé un petit bout de bidon en me disant peut-être un jour j'aurai une rechute, je n'en ai toujours pas eu. Voilà. Alors à tel point que lui, responsable de la police, quand Loïc Leribot a quitté l'île de Jersey, s'est fait dépositaire des produits Leribot pendant quelques temps, pour un service autour de lui simplement. Et puis devant le succès que ça avait, a fini par léguer ça à une personne qui guérit sur place, parce que là-bas on peut soigner, soit être vraiment médecin, c'est prévu dans ces pays-là, voilà. Une personne qui est thérapeute et qui s'occupe de ça dorénavant. Alors je connais bien cet homme-là, je suis revenu en France avec lui en voiture, sur le bateau, etc. Et j'ai vraiment vérifié, c'est pour dire, j'ai vraiment vérifié. Il n'y a rien à dire, il y a vraiment quelque chose dans ce domaine.
Alors tout ça commence par une petite expérience technique au microscope électronique. Loïc Leribot, il nous l'a raconté, enfin c'est vous qui l'avez raconté tout à l'heure.
Tout à fait, oui.
Tripote une solution, enfin examine une solution de silice.
Voilà, et il a une maladie aux deux mains. Et bizarrement, il se dit, mais comment se fait-il que ma main droite fonctionne mieux que ma main gauche, ou vice-versa, je ne sais plus très bien, une de mes deux mains fonctionne mieux que l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus la maladie que j'avais, et c'était une psoriasis, je crois qu'il avait. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, je tiens mon microscope d'une main, et de l'autre main, je manipule, alors qu'est-ce que je manipule là? Et il a analysé ce qu'il avait manipulé, et je crois que là, il va nous le raconter, il découvre que c'est de la silice, etc. Et
la seule chose que j'avais faite, en fait, c'était de tremper la main dans cette solution de silicium. Alors au laboratoire, je trempe la main gauche, et puis deux jours plus tard, paf, c'est disparu.
La deuxième main est également guérie.
Oui, alors à ce moment-là, je commence à me poser des questions sérieuses sur ce que c'est d'abord cette solution. Ben, c'est du silicium, d'accord, ça on le sait. Mais pourquoi ça guérit? Et puis, est-ce que c'est un hasard? Le psoriasis, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un facteur psychosomatique, on ne sait pas en réalité ce que c'est vraiment, le psoriasis. Alors là, je commence à traiter tous les membres de ma famille qui ont des problèmes de peau. C'est très dangereux d'être dans ma famille des fois parce qu'ils servent de cobayes.
Ah oui.
Les amis aussi. Et puis, ceux qui ont des problèmes de peau, comme des herpès, de l'acné, paf, ça disparaît.
Ça disparaît sous l'effet du traitement pendant que l'on le met, mais est-ce que les sources disparaissent? Est-ce que ça revient à l'herpès, par exemple?
Ah non, bah non, alors ça maintenant, ça c'est 73, hein. Ah donc oui, à l'époque oui. Je maîtrise pas, je ne sais même pas ce que c'est.
Oui, vous cherchez simplement à comprendre.
Je cherche à comprendre.
Et on est en 73 à ce moment-là.
Et là on est en 73, voilà, enfin oui. 73, 75, je crois que c'est, oui, ça dure quand oui. même. Et puis je commence à donner du produit à des amis médecins, qui observent la même chose. Mais au fur et à mesure, parce que je ne vais jamais arrêter en fait les recherches. On parlera de moi pour Educarm, pour la criminalistique, on parle de moi pour l'endoscopie, oui. Mais j'ai jamais parlé du silicium application thérapeutique. Personne
oui.
ne le sait.
Oui, oui.
Sauf mes proches et des médecins.
Oui. C'est votre passion, un petit peu votre jardin secret.
Ah, mais il est plus que secret, oui.
Oui, oui.
Oh, personne.
Difficile pour un secret d'être plus que secret.
Il y a les faux secrets et puis il y a le secret secret.
C'est
les caves du Vatican.
Quoi. Ce sont vos caves du Vatican personnel. Vous travaillez toujours donc depuis 73 pour essayer de comprendre et de progresser dans la connaissance de cette espèce de médication miracle.
Oui.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait. Et puis. Et puis il y a des médecins, au bout d'un certain temps, de certaines années en fait, hein, qui disent, mais c'est tout à fait bizarre, parce que les gens qu'on traite avec ton produit pour un herpès, ils n'ont plus de problème de rhumatisme. Et en plus, leur santé va mieux, ils ont pris du tonus, ils dorment mieux. Alors ça marche pas, quoi. Ça marche bien, mais pourquoi? Comment? C'est impossible à comprendre. Donc je continue à travailler là-dessus. Et donc je crée le CARM en 1980, à Noël 81. Et en janvier 82, je rencontre Norbert Dufaux, un chimiste de l'université de Bordeaux, au cours d'une manifestation scientifique. Alors lui, en 1957, a mis au point un silicium organique de synthèse. Et il fait des applications thérapeutiques depuis cette époque-là. Alors moi, je travaille sur un silicium naturel.
Oui.
Lui, il travaille sur un silicium de synthèse. Oui. Et on décide de travailler ensemble. Et on va travailler ensemble pendant 13 ans.
Et ça se fait avec une structure, quelque chose, ou bien comme ça?
Ah, non. Alors lui, il était oui. aussi peu pro-structure que moi. Non, ça se passe de façon informelle.
Vous étiez deux électrons libres, c'est ça?
Ah, complètement. Oui, tout à fait.
Oui.
Et puis on améliore la molécule et en fait on va passer à plusieurs générations de silicium organique et jusqu'en 1987 où on met au point
une molécule spécifiquement antivirale qu'on appelle qui est en fait le G4 antiviral.
Antiviral. C'est très difficile de trouver quelque chose.
Ben vous, ça marche pas.
C'est les types de virus. Oui, parce qu'il y a les virus à ARN, les virus à ADN, et les virus différents en fait.
Mais et c'est là qu'on commence à comprendre.
Oui.
C'est impossible de traiter différents virus avec la même molécule. Oui. Il n'y a qu'une seule solution. Oui. Une seule solution, c'est qu'on renforce les défenses immunitaires de l'organisme. Alors on va très très loin là.
Tout
parce que là, on ne traite même pas les maladies. On va renforcer l'organisme.
Oui,
on donne à l'organisme les forces pour lutter contre les virus. Mmh. Ce qui est beaucoup plus important.
Vous faites un petit peu la médecine de Claude Bernard, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle n'est pas, parce que vous travaillez sur le terrain et pas sur la maladie, en fait.
Très exactement. Sauf que, on ne le savait pas.
Et que vous l'avez appris au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous avez fini par comprendre? Vous êtes associé avec des médecins. Qu'est-ce que vous avez fait pour...
C'est-à-dire que... moi je suis toujours avec le CARM à ce moment-là. Hein.
Oui, donc vous êtes trop occupé pour aller plus loin.
Oui, tout à fait. Mais en 1994,
oui.
Donc là je suis, non seulement ma maison est vendue, mais là j'en étais locataire.
Oui.
J'en suis expulsé un matin, à 7h du matin si je ne m'abuse. Les huissiers débarquent avec la police, parce que je suis réputé de dangereux aussi et agressif.
Oui.
Enfin, je suis parfois agressif, c'est vrai. Et je suis expulsé avec ma mère de 85 ans en une demi-heure. Voilà. Et les meubles, les documents, etc. sont stockés dans un garage. Et je dois trouver une maison qui m'héberge.
Oui, et puis aussi, donc...
Je suis bâché.
Et une nouvelle occupation, en fait, aussi. Donc, alors, c'est là que vous avez plus de temps pour vous consacrer à vos recherches sur le G5.
En fait, j'avais commencé avant. Six mois avant, à peu près, j'avais commencé une fabrication... semi-industriel, quand je dis semi-industriel, ça veut dire dans la salle de bain. Hein.
Oui, de bricolage.
De bricolage, parce que de plus en plus de médecins sont intéressés, j'ai de plus en plus de patients qui viennent, et ça commence à faire une clientèle qui n'est pas négligeable. J'ai oublié de dire que Dufaux se suicide.
Oui.
Se suicide en novembre.
D'une manière qui a toujours semblé étrange, d'ailleurs.
À moi, elle m'a toujours paru étrange.
Oui.
Il allait publier un livre.
Oui.
Il était célibataire, donc il vivait tout seul chez lui, et on le découvre mort, empoisonné dans son lit un matin.
Ah oui. Empoisonné avec quoi?
Alors, on m'a dit, parce qu'on ne m'a pas donné l'expertise, on m'a dit empoisonné au cyanure de potassium. Mmh. Or, scientifique de haut niveau, et Dufaux est un scientifique du plus haut niveau, Dufaux était un génie, hein.
Oui.
Se suicide pas aussi dans le potassium, parce que c'est extrêmement...
À ce moment-là,
non, pas particulièrement, il en avait...
On m'a dit qu'il avait été acculé à cette époque à la faillite, qu'il avait de gros problèmes.
Dufaux n'avait pas de faillite, je ne vois pas pourquoi.
Non, il n'avait pas de problèmes financiers, énormes.
À ma connaissance,
non, j'avais vu ça d'autres sources, mais vous êtes mieux fait.
Non, mais il avait toujours eu des problèmes. Il était professeur à l'université. Il ne gagnait pas des sommes astronomiques.
Mais il n'avait pas de problème particulier à ce moment-là, alors, en fait.
Mais moi, depuis un an, je ne le voyais pas, parce que moi, j'avais mes propres problèmes. Mais à ma connaissance, non. Non, par contre, il était extrêmement déçu, ça c'est vrai, que... Et puis moi aussi.
Toutes ces recherches sur le silicium, personne ne s'y intéresse.
Mais non, on a envoyé des tas de documents au ministère de la Santé, en fait, à tous les organismes responsables de la santé, pour demander simplement à ce qu'on teste le produit.
Oui.
Ça a toujours été, ça n'a même pas été un refus, ça a été jamais de réponse.
Même pas de réponse.
Et j'ai une lettre que je pourrais vous montrer tout à l'heure, adressée en 1987 à Jacques Vallade, à l'époque ministre de la Recherche, en disant « Nous avons obtenu des résultats intéressants sur le sida.
Oui.
Il n'y en a pas assez pour prouver que ça marche.
Oui.
Mais il faut absolument que vous essayiez nos produits sur le sida.
Oui. »
Et donc, actuellement, en 2001, on n'a toujours pas de réponse.
Pas de réponse non plus.
Et c'est une lettre enregistrée par Vissier.
D'autres se sont trouvés dans le même cas que vous. Je pense que vous avez également coupé l'herbe sous le pied des grands laboratoires pharmaceutiques et on n'a jamais pardonné à personne. Il y a en France un système de lobby que tout le monde connaît et vous avez dû les déranger à cette époque. Alors, continuons donc à ce moment-là. Alors, vous avez beaucoup plus de temps libre, et puis en plus, vous êtes seul du foie disparu.
Oui, donc, et alors je mets au point, peu de temps après sa disparition, mais j'avais commencé à travailler avant.
Oui.
Un nouveau silicium, parce qu'entre-temps, bien sûr, j'ai découvert que cette solution-là qui m'avait guéri, psoriasis,
oui.
C'est du silicium, oui, mais pas du silicium minéral, comme le quartz.
Oui.
C'est un silicium différent, tel que le fabriquent certains micro-organismes, c'est ce qu'on appelle le silicium organique.
Organique, oui.
C'est-à-dire que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, si vous voulez, oui. Mais je vous disais tout à l'heure que silicium minéral, c'est silicium...
Plus facilement assimilable, puisqu'il est déjà organique, parce que celui qui est minéral, et qu'on ne peut pas assimiler.
Il est parfaitement assimilable,
oui.
Parce que ces petites bêtes, greffent un atome de carbone, ça veut dire la vie,
oui,
donc
oui.
C'est le silicium organique, parfaitement assimilable.
Oui.
Et donc, j'ai mis au point, là, à ce moment-là, une molécule qui est composée exclusivement d'eau pure et de silicium. Parce qu'à l'époque, avant, quand on utilisait les générations antérieures,
oui.
Il fallait ajouter certains éléments médicaux, médicamenteux, allopathiques, parce qu'on avait constaté que le silicium organique potentialisait les produits qu'on met dedans d'un facteur 10.
Oui.
Donc, il suffisait très peu de choses, mais ça pouvait être de la pénicilline, on pouvait rajouter des choses comme ça, spécifiquement selon certains types d'infections.
Ah oui.
Et on ne pouvait l'utiliser que par application cutanée, sur la peau.
Oui.
Et là, je mets au point un médicament qu'on peut appliquer sur la peau, bien sûr,
oui.
Mais qu'on peut également boire,
oui.
Et qui n'a aucune toxicité. La toxicité est équivalente à celle de l'eau. Et le produit, est d'ailleurs composé de 99,8% d'eau et de 0,2% de silicium organique.
C'est pour faire des
faits. Et c'est ce que j'appelle le G5. Pourquoi G5? Parce que ça veut dire génération 5.
Oui, parce qu'il y a eu une première génération avec du faux, une deuxième.
Deux premières avec du faux, et la troisième avec moi, quatrième ensemble, et la cinquième.
Et la cinquième, vous tout seul. C'est ça, tout à fait.
Voilà.
Et alors, continuons l'aventure du silicium.
Ça commence à faire du bruit. Là, on est au printemps 1995. Il commence maintenant à y avoir des centaines de gens officiellement, entre guillemets, bien sûr, soignés.
Oui.
Et un jour, je vois arriver, très tôt le matin, une grosse Mercedes noire devant chez moi. Et j'ai des témoins, bien sûr. Quelqu'un sonne. Il porte un gros sac de sport à la main. Alors, il se présente, c'est le directeur d'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques français.
Oui.
Dont je ne dirai pas le nom, parce que là, j'ai pas la preuve écrite.
Ah oui, d'accord. Il y a des témoins qui l'ont vu venir,
tout à fait.
Mais en revanche, vous ne direz pas le nom, parce que vous ne pouvez pas le prouver.
Je ne dis jamais rien que je ne puisse...
Prouver. Oui, oui.
Et dans la salle de séjour, sur cette table, il pose son sac de sport. À l'intérieur, il y a 1 milliard de centimes, en liquide.
Mmh.
Et il me dit, je viens acheter votre brevet. Il y a 1 milliard là-dedans. Effectivement, il y a des choses magnifiques à faire avec ça. Et il dit, non, vous ne m'avez pas compris. J'achète votre brevet pour enterrer votre produit. Parce que votre produit, à vous, va tuer des milliers de médicaments que nous, on a actuellement sur le marché. Et votre molécule, elle est trop efficace et pas assez chère. Et je le flanque dehors un coup de pied aux fesses.
Oui.
J'aurais dû prendre le milliard. J'ai été un imbécile.
Oui.
Ben oui, je ne vous le fais pas dire.
Oui, oui, tout à fait.
J'aurais pu prendre le milliard, partir aux Caraïbes et monter ma clinique.
Oui, tout à fait, mais vous étiez
idiot.
Vous étiez honnête, simplement. Alors,
oui.
C'est terrible de penser qu'à notre époque, on ne peut pas dire qu'on est idiot parce qu'on est le seul à être honnête.
C'est une des choses que je regrette. Hein. Oui, évidemment.
Alors,
écoutez, ils n'arrêtent pas de faire la preuve. Et qui sont malhonnêtes, hein, avec leur complicité, ils tuent des centaines de milliers de gens par an. Il faut bien dire ce qui est, avec les médicaments pourris.
Oui, par complicité. Il y a eu des plaintes, il y a tout en temps des morts, des AMM donnés sans justification. Des médicaments qu'on retire en catastrophe, mais ces gens-là n'ont aucun problème.
Non, alors voler 1 milliard à ces gens-là, c'était vraiment faire une bonne action. Et je n'y ai pas pensé. Voilà.
Ben, ça prouve que vous n'êtes pas aussi crapule que tous ces gens-là. Alors continuons. L'histoire de l'innocent
Ça continue à grossir. Donc là, je suis expulsé de chez moi, avec ma mère et mon chien. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui en a entendu parler, et qui est un excellent journaliste, qui a fait un bouquin notamment sur Prioré, qui s'appelle Jean-Michel Graille.
Oui.
Et comme il a entendu parler de la molécule, il décide de vérifier si c'est vrai ou pas.
Oui.
Et il fait, pendant 4 mois, il fait une enquête. Il me demande d'abord s'il peut m'accompagner chez des patients. Il me demande s'il peut voir les dossiers médicaux, etc. Donc il a accès absolument à tout et en toute liberté.
Oui.
Il a l'autorisation, bien sûr, d'interroger les patients hors de ma présence.
Enfin, oui, oui.
Et puis au bout de 4 mois, bon, ben, bien sûr, il est persuadé. D'autant plus que lui, il avait un doigt déformé par l'arthrose, presque à angle droit. Et au bout d'un mois de traitement, crac, le doigt était revenu à la normale. Et la direction de Sud-Ouest accepte de publier l'article. Et l'article paraît le 8 octobre 1995. Et c'est là que commencent vraiment mes plus gros ennuis. Dans la journée même, c'est des milliers de patients qui ont trouvé ma trace, alors qu'il n'y avait pas l'adresse. Hein.
Oui.
Dans la journée, c'est fait. À 7h du matin, il y avait déjà des gens à ma porte. Hein.
Oui.
Et ce sont des milliers de gens qui défilent. Tellement de gens que je suis obligé de louer un hôtel entier. C'est chiant.
Oui.
Je fais venir des amis médecins pour soigner les gens en direct.
Oui, oui.
C'est-à-dire des gens avec des problèmes d'arthrose, d'arthrite, etc., qui sont traités dans la journée. Et c'est encore une fois la boule de neige.
Et ces gens payaient pour ça?
Non, ils payaient que le produit, les consultations étaient gratuites.
Non, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que parmi ces gens-là, vous avez des gens qui sont plaints de ce qui s'est passé?
Alors, je n'ai jamais eu une seule plainte. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que j'ai traité d'abord tout seul et puis ensuite avec mes bureaux, là, plus de 100 000 personnes.
Donc ces gens ont payé le produit et n'ont jamais trouvé qu'ils avaient été escroqués d'une manière ou d'une autre. Ils ont été contents.
Il n'y a jamais eu de... Ah non, je n'ai eu que des milliers de lettres de soutien. Jamais eu une seule plainte.
Et pourtant, vous avez eu des problèmes par la suite.
Ben, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus important. Ça devient un phénomène de société.
Oui.
Et un jour, la télévision, je ne sais plus quelle chaîne, arrive pour faire un reportage sur la foule des gens, mes collaborateurs qui tournent d'une salle à l'autre. L'ambiance est chaude. Hein. Et mais enthousiaste, parce que les gens sont contents.
Oui,
ils arrivent, ils souffrent de douleurs depuis 10 ans, et puis au bout d'une demi-heure, il y en a qui sortent, ils ont moins mal, ou même ils n'ont plus mal.
Oui.
C'est filmé.
Tout ce remue-ménage a dû attirer les médias, les autorités.
Ah ben d'abord les médias, et au moment de Noël 1995, la télévision arrive, je ne me souviens plus quelle chaîne, et fait un reportage où on voit les gens qui arrivent à l'hôtel, certains même ont des béquilles, et puis ils ressortent une demi-heure après sans leurs béquilles, et ça a été filmé, il y a de nombreux témoignages.
Le premier ménage a dû attirer les autorités, ou au minimum les médias.
Dans un premier temps, les médias. Et la télévision arrive vers Noël, un petit peu avant Noël, et va faire tout un reportage sur l'hôpital Hôtel Miracle. Alors, ils vont voir en direct, ils vont filmer des gens qui arrivent perclus de douleur et qui ressortent bien améliorés, et même plusieurs fois des gens avec des béquilles et qui ressortent au bout d'une demi-heure en marchant normalement.
C'est extraordinaire.
Ben, pour celui qui connaît bien le G5, non. Mais effectivement, pour la télévision, c'est assez extraordinaire.
Oui, pour la plupart des médecins aussi, qui n'ont pas les mêmes résultats tout de même. Et puis pour les malades qui arrivent là, au bout de 10 ans de souffrance, c'est aussi extraordinaire.
Ils étaient ravis, c'est moi qu'on puisse dire. Mais il y avait des milliers de patients. En 2 mois, j'ai dû soigner 10 000 personnes.
C'est extraordinaire, c'est inouï quand même.
C'est inouï. Et donc, l'émission passe le soir à la télévision, au journal télévisé. Une longue émission, plusieurs minutes. Et là, je déclare, cette expérience prouve que les patients préfèrent être guéris illégalement que mourir dans le respect des lois. Et cette phrase va me coûter très cher, parce que au début de l'année 1996, l'Ordre des pharmaciens et l'Ordre des médecins portent plainte contre moi, dans un premier temps, pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la pharmacie. Alors je suis très content, dans un premier temps, parce que si ils portent plainte pour ce genre de choses, logiquement, ces gens étant chargés de la santé publique, vont être obligés de faire les tests officiels sur le G5 que Dufaux et moi réclamions depuis des dizaines d'années. Eh bien non, rien ne se passe. Rien ne se passe, et j'arrête l'expérience, donc par conséquent après. Mais rien ne se passe pendant encore 2 mois. Et au mois de mars 1996... je décide de partir pour les Caraïbes. En fait, c'est des escrocs qui m'envoient aux Caraïbes, parce que des escrocs qui, ma foi, travaillent en étroite coordination, vraisemblablement avec l'industrie pharmaceutique. Et on m'envoie dans l'île d'Antigua, dans les Caraïbes britanniques. C'est une île qui est juste au nord de la Guadeloupe, où je suis, paraît-il, attendu par le Premier ministre, qui est prêt à m'offrir un laboratoire et qui est même prêt à reconstruire le CARM. Et je pars là-bas aux Caraïbes, absolument sans argent. Sur moi, j'ai 150 francs français, parce qu'il paraît que je vais être accueilli tout à fait officiellement et que le tapis rouge est déroulé sur la plage. Mais quand j'arrive là-bas, il y a la plage, bien sûr, mais il n'y a pas le tapis rouge, le ministre n'a jamais entendu parler de moi, et, chance extraordinaire, il se trouve que j'ai une amie qui est en vacances à Antigua à ce moment-là. Et en plus, je ne parle pas anglais. Alors, c'est une île purement anglophone. En fait, je vais rester à Antigua pendant 9 mois. Et il se trouve que j'avais emporté avec moi, j'emporte toujours avec moi du G5. Et j'avais emporté avec moi 3 minuscules petites fioles de G5. Concentrées. Et évidemment, je n'ai pas d'argent, et ça coûte cher de vivre à l'hôtel, même dans un hôtel modeste. Et je décide de prendre le taureau par les cornes. Antigua est une île de milliardaires. Qui dit milliardaire dit généralement personnes âgées. Qui dit personnes âgées dit généralement arthrose, rhumatisme. Alors je décide, à beau matin, il me reste 50 francs. Et je décide d'investir ces 50 francs dans un petit déjeuner. Je ne sais pas si ce ne sera pas le dernier, puisque je n'ai aucune source de revenus. Et je dépose sur tous les magnifiques bateaux qui sont là une petite feuille de papier expliquant ce qu'est le G5. En me disant, peut-être après tout, qu'il y en a là-dedans qui souffrent de douleurs rhumatismales et puis qui vont me demander de les soigner. J'avais mes 30 petites fioles. Et je prends mon petit déjeuner tranquille et je vois arriver bientôt un capitaine sortant de son bateau, enfin propriétaire bien sûr, hein, en habit d'amiral, et qui tient ma feuille à la main. Il est suivi bientôt par un autre, qui a aussi sa casquette de capitaine et son uniforme de yachtman. Ils s'asseyent tous les deux, juste à côté de moi, et il y en a un qui dit « John, t'as vu ça, ce qu'on a posé sur le pont de mon bateau ?» Et l'autre dit « Ben, moi on m'a posé la même chose. » Et tu crois vraiment à ces sornettes? C'est impossible, moi ça fait 20 ans que je dépense. Enfin, avec ce que j'ai dépensé chez les médecins, j'aurais pu m'acheter 2 bateaux comme mon yacht. Le yacht, il fait 30 mètres de long. Hein. Et moi je suis à côté, il faut bien que je réagisse. Alors j'ai dit, mais écoutez messieurs, c'est tout à fait sérieux. Ça, c'est moi qui ai déposé ça sur le pont de votre bateau. Alors si vous voulez, vous terminez votre petit déjeuner, et puis je vais aller sur votre bateau et je vais vous soigner. Ce que je fais. Et ils sont soignés. Au bout d'une semaine, j'avais gagné assez d'argent pour rentrer en France. Et au bout de 15 jours, ma foi, j'étais à l'aise.
C'est extraordinaire, encore une fois.
Encore une fois, c'est extraordinaire.
Et qu'est-ce qui s'est passé en Antigua? Parce qu'il a fallu ensuite en revenir, précisément.
Ben, c'est-à-dire que donc je commence à... Bon, disons que je n'ai plus de problème financier à ce moment-là. Et je peux commencer à faire des démarches officielles. Et j'obtiens les agréments officiels du gouvernement de la Dominique, une autre petite île qui est située entre la Guadeloupe et la Dominique, et du gouvernement Antigua, pour utiliser le G5 en tant que médicament. Un journal français publie la nouvelle. Le lendemain même, 5 policiers français, un gendarme et un inspecteur de la pharmacie, une femme, débarque chez ma mère, enfin dans la maison qu'on a louée depuis.
En France. Alors que vous êtes à Antigua.
Et moi, je suis
dans quelle région de France?
Toujours les environs de la Teste, du Jean Mestras, Bordeaux, quoi, hein, toujours la région de Bordeaux.
Oui, oui.
Et donc c'est dans la maison de ma mère.
Oui.
Pour perquisitionner. Et où j'ai mon petit bureau, effectivement. Donc ils saisissent les documents, tous les documents qu'ils trouvent. Mais visiblement, ce qui les intéresse le plus, c'est les documents qui concernent le CARM.
Oui.
Et ils ne sont pas pour ça. Ils sont pour le G5.
Oui.
Ils saisissent les listes des clients. Ils essayent de trouver tous les dossiers aussi concernant le G5. Pour la petite histoire, pendant que ses collègues fouillent pour essayer de trouver les documents sur le G5, celui qui lit en fraude les documents sur le CARM est assis sur la caisse dans laquelle se trouvent justement les documents sur le G5.
C'est assez amusant.
Oui, oui tout à fait. Et donc, eh ben, ma foi, ils ne trouveront jamais.
Ils ne trouveront jamais parce que...
Mais non, il est assis dessus. Voilà. Et ils vont interroger ma mère. Ma mère a 85 ans. Et les policiers vont interroger ma mère pendant 5 heures.
Chez elle ou ils l'emmènent
Chez elle, oui. Non, mais si elle, ils lui disent que si elle ne veut pas répondre, ils vont l'emmener.
Oui.
Donc elle leur répond, bien entendu.
Oui.
Et le soir même, elle tombe malade, et 15 jours plus tard, elle meurt.
Oui, c'est vraiment dramatique. On a l'impression, quelque part, d'un assassinat.
Ah, mais c'est un assassinat.
Pour vous, apprendre ça et que ça a été lié à votre personne, ça a dû être terrible d'apprendre ça aux Antipodes.
Mais d'autant plus que, donc à l'époque je suis à Antigua et je songe à venir pour l'enterrement.
Oui.
Et à ce moment-là, parce que j'ai gardé quand même beaucoup d'amis dans la police et dans la gendarmerie,
oui.
Et un ami policier me téléphone en me disant, ne va pas à l'enterrement, il y a deux des collègues qui t'attendent.
Oui.
Et j'en ai eu les preuves depuis, il y avait deux flics qui m'attendaient au cimetière.
À l'enterrement,
c'est ça. Voilà. Oui. Donc je décide de continuer pour poursuivre, je dirais, la mise au point du G5 aux Caraïbes. Et finalement, je reviens en France pour faire une conférence de presse. Je reviens en France au mois de décembre 1996. Et j'arrive... ça s'appelle la place des Carmes, ce qui est très drôle.
Oui.
Je viens donc faire à Langon conférence à la place des Carmes.
Oui.
Et là, le SRPJ m'attend, je suis arrêté immédiatement, et je suis emmené donc au SRPJ de Bordeaux, où on me signifie que je suis un individu extrêmement dangereux, puisque les inculpations... Alors là, je lis, je suis mis en examen, parce qu'on ne dit plus inculpé maintenant.
Oui, on dit
mis en examen. Il n'y a plus d'aveugles, il y a des non-voyants.
Oui,
il y a plus...
ça, oui.
Bon, alors moi, je suis mis en examen. Il n'y a plus d'escrocs, il y a des non-honnêtes.
Oui, c'est ça. Je propose aussi des problèmes au niveau du langage, maintenant.
Oui, tout à fait. Alors, je suis mis en examen pour infraction sur la recherche biomédicale. Je rappelle qu'entre-temps, je suis devenu docteur et sciences, d'État et sciences. Donc, je ne fais pas d'infraction, je ne tiens pas la route. Exercice illégal de la pharmacie. Commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché. Fabrication de médicaments sans autorisation. Publicité en faveur de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché. Je n'ai jamais fait de publicité. Et dans un état non pharmaceutique. Exercice illégal de la médecine. Escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue. Alors, voilà ce dont on m'accuse. C'est précisé au-dessous en petites lettres. Ce qui est susceptible de me valoir une peine d'emprisonnement correctionnel égale ou supérieure à 2 ans. Alors, 2 ans, je comprends. Mais ou supérieure, ça veut dire quoi?
Mais c'est un vague artistique.
Et donc, le soir même, le SRPJ, le commissaire du SRPJ de Bordeaux téléphone à mon juge d'instruction, un nommé Alain Rénal, qui dit qu'il n'a pas le temps de me recevoir et que, par conséquent, il est tout à fait logique de m'héberger gracieusement à la prison de Gradignan. Donc, je me retrouve à la prison de Gradignan, où je vais rester pendant 2 mois et demi, alors que pas une seule plainte n'a été déposée contre moi. Il y a eu la plainte, bien sûr, de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, susceptibles de me valoir une amende, mais en aucun cas une peine de prison. Et je suis mis à l'isolement pendant 2 mois et demi à la prison de Gradignan.
Évidemment, sur ces dizaines de milliers de malades, il n'y a aucun plaignant.
Ah, pas un seul.
Pas un seul.
Par contre, le juge recevra, lui, des centaines de lettres, quand je serai en prison, des centaines de lettres, moi j'en ai des milliers, mais le juge lui-même recevra des centaines de lettres d'encouragement et de soutien.
Oui. En ce qui vous concerne,
à ce moment-là,
des malades.
Oui,
guéri. Dont on tiendra compte ou
du tout. Ah, du tout, parce que mon cas, en 2 mois et demi, le juge de Dengra m'a interrogé que 2 fois.
Mais au moins l'inculpation d'escroquerie dans ce cas-là, avec tous ces gens satisfaits et avec aucun plaignant, est-ce qu'elle tient toujours?
Non, alors c'est tout à fait bizarre, parce que je viens de recevoir, parce qu'ensuite j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, parce que je suis dangereux.
Évidemment, guérir les gens sans autorisation, c'est extrêmement dangereux.
Je suis pire que Bin Laden, il n'y a pas de problème. Et là, bizarrement quand même, l'accusation d'escroquerie est tombée.
Bizarrement, effectivement.
Et puis donc, finalement, au bout de 2 mois et demi, grâce à mon avocat, je suis libéré sur décision de la chambre d'accusation. Alors que mon juge voulait me garder encore 6 mois. Hein. J'étais mis en plus à l'isolement absolu. Parce qu'en fait, la situation était la suivante. Je me retrouvais mis à l'isolement absolu sous prétexte de me protéger.
Oui, à cause de votre passé en ce qui concerne la police scientifique. Vous étiez enfermé avec les gens que vous aviez contribué à faire enfermer jadis.
Très exactement. Et je recevais effectivement sous ma porte des menaces de mort.
C'est une situation horrible quand même.
Oui, effectivement, oui.
Et comment est-ce que vous avez survécu à cela?
Bien, ma foi.
Pas du tout préparé, quand même, ce genre
J'étais pas du tout préparé. Je dois dire que il devait être 7 ou 8 heures du soir, c'était l'hiver, vous vous retrouvez devant une cellule. Moi, j'étais allé souvent dans les cellules pour faire des prélèvements.
Oui, en tant qu'assesseur de la justice.
Exactement. On vous ouvre, c'est une cellule qui est toute noire. Et le gardien, très gentiment, vous souhaite bonne nuit. Et clonk, la porte se referme derrière vous. Vous savez même pas où est l'interrupteur, vous savez d'ailleurs même pas s'il y a un interrupteur, et puis vous entendez une respiration, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans la cellule.
C'est impressionnant.
Et vous ne savez pas qui c'est. Alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais dans une mauvaise situation, mais je me suis rendu compte vraiment que mon aventure, c'était du Kafka, quoi.
Oui. Mais enfin, dans ces moments-là, c'est tellement injuste qu'on dit ça va s'arrêter demain matin.
Ou non, là je savais qu'à partir du moment où on avait osé faire ça,
Plus loin,
incontestablement. Oui. D'ailleurs, et la meilleure preuve d'ailleurs, donc mis à l'isolement, dans une prison où il y avait plein de gens arrêtés grâce à moi,
oui.
Où je serais presque enclin à dire maintenant à cause de moi.
Hein. Oui.
Et dans une cellule sans chauffage, avec sans vitre, avec une température qui était de moins 10 à l'époque dehors, j'ai eu une main gelée, un pied gelé. C'est pas de l'assassinat non plus, mais en tous les cas, ça a tendance aussi peut-être à vous pousser au suicide. C'est tellement pratique un suicide.
C'est tellement pratique, encore heureux qu'on n'ait pas pratiqué à votre place. Ça arrive dans cette bonne
réponse. Non, mais alors, ça arrive tout à fait. Mais le problème pour eux, alors en l'occurrence, ceux qui auraient pu envisager quelque chose comme ça, c'est que j'avais pas mal de gardiens que j'avais soignés.
Ah, en plus, oui. Vous n'aviez pas que des ennemis sur place. Oui.
Ah, les gardiens, non. Et alors,
les gardiens ont été très corrects.
Ah, les gardiens ont été. Très correct, et tout en respectant le règlement, évidemment, ils n'avaient pas le choix, ils ont cherché au maximum à me faciliter la vie.
Oui, aussi à vous protéger, donc, parce que le créateur de la police scientifique française, enfermé avec les crapules qu'il a fait arrêter, et comme crime pour avoir soigné des gens et les avoir guéris de manière illégale, c'est quand même extraordinaire.
Oui.
Donc vous êtes le responsable de la police scientifique française, et est enfermé dans une cellule au milieu des gens qu'il a fait arrêter et gardé par des gardiens qu'il a soignés pour le crime d'avoir soigné d'autres personnes et les avoir guéris de manière illégale grâce au silicium organique.
Alors la première inutile de dire que la première nuit je n'ai pas très très bien dormi. J'ai oublié de dire un détail aussi, c'est que j'ai eu des gros problèmes de dents, notamment quand j'étais à l'armée, et j'ai fait
un œdème.
Ah, quand les gencives disparaissent. La maladie des voiliers.
Et vous avez un problème de gencives, oui, qu'on a dans les bateaux, expliquons.
Oui,
lorsqu'on mange pas cette vitamine.
Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est un comble. Et je suis censé m'occuper de domaine médical.
Oui, ça arrive de
scorbut.
Voilà, vous avez souffert du scorbut. Oui.
Et donc, j'ai perdu presque toutes mes dents. Et donc, je voulais leur faire un appareil. Et le matin même de mon arrestation, on m'avait arraché 5 dents.
Et vous êtes retrouvé dans cet état avec 5 dents fraîchement arrachées.
Oui, et le juge a toujours refusé que j'aille chercher mon appareil dentaire. Ce qui fait que pendant à peu près 15 jours, j'ai dû boire uniquement de l'eau sucrée.
Oui.
Et puis, et ensuite, j'étais obligé de manger avec les gencives, simplement, puisque le juge refusait qu'on me donne mon appareil dentaire.
Vous aviez un avocat à cette époque
qui... Oui, mais il n'y pouvait rien, le juge est maître d'œuvre.
Oui, tout à fait. Mais donc, le juge n'ignorait pas l'avocat, lui.
Ah non.
Il savait parfaitement ce qu'il faisait, en fait.
Absolument, et j'étais allé à l'infirmerie, il avait été prévenu par le dentiste, par les médecins également. Donc, non, c'était en toute connaissance, toute connaissance.
C'était juste qu'elle vous refusait un appareil dentaire.
Ah oui, qui était prêt, qui m'attendait.
Oui, tout à fait. C'est impressionnant. Continuons.
Et puis, j'avais le droit de sortir. J'avais le droit de sortir une heure par jour. Donc deux fois une heure par jour. Mais c'était dans les couloirs, dans une pièce isolée, dans une cour isolée.
Oui.
Mais c'était tellement glacial que c'était insupportable. Ce qui fait que je suis resté enfermé, en fait, pendant 2 mois.
Quoi. Pendant 2 mois. Oui. Et donc après, vous sortez?
Ah, donc je sors après. Et au bout d'un mois... à peu près. Alors, je suis assigné à résidence, je suis astreint à contrôle judiciaire, comme un criminel. Hein. Le juge me fait saisir mon passeport par la gendarmerie pour m'empêcher de m'évader. Il dit que je suis dangereux. Heureusement, il me laisse mon permis de conduire parce que ça, il n'y a pas pensé.
Oui.
Et au bout d'un mois, un ami policier, comme d'habitude, me téléphone pour me dire « Fiche tes camps, les collègues arrivent. Pourquoi ?» Pour t'arrêter à nouveau, parce qu'on a monté un dossier contre toi. Je ne suis pas un dossier monté contre moi. Sous prétexte que j'aurais volé un tableau de maître. Ah bon. Au cours de mes expertises, bah oui, il faut bien inventer quelque chose quand même.
Oui.
Je m'en vais et je n'ai que le temps de m'en aller. Parce que les policiers, ils arrivent. Et à ce moment-là, bah, je m'en vais chez une amie à Bordeaux, qui accepte de m'héberger, parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et je reste chez elle une nuit, et le lendemain matin, je repère deux voitures du SRPJ qui patrouillent devant chez elle. Et je m'en vais par la porte de derrière, tout simplement. Et alors là va commencer un voyage...
Fugitif complet.
Oui, sans papier. Hein,
sans papier, avec juste le permis de conduire, quand même.
Le permis de conduire. Permis de chasse.
Oui, ça sent pas.
J'ai jamais chassé, mais j'avais un permis de chasse.
Oui, oui. C'est vous qui étiez le gibier.
C'était moi le gibier. Et j'ai réussi à traverser toute la France, ça prend plusieurs jours. Je suis hébergé, pour la petite histoire, par des juges d'instruction. Je suis hébergé dans une gendarmerie, où d'ailleurs je vais soigner un gendarme qui s'est sérieusement, je ne sais plus si c'était brûlé ou coupé.
Oui.
Je suis hébergé chez un policier.
Parce que vous avez toujours dans ces cas-là avec vous, vos petites filles.
Ah ben j'ai toujours, oui, bien sûr.
Qui vous sauve la vie à chaque fois.
Absolument, oui. Alors à l'époque, je veux aller en Belgique à ce moment-là.
Oui.
Et à l'époque, il y a le plan Vigipirate que vous avez...
Pour vous aider.
Forcément, il risque quand même d'y avoir des contrôles. Or, je n'ai rien.
Oui.
Et c'est un policier qui m'accompagne jusqu'à la gare. Donc, on traverse sans aucun problème les barrages de gendarmes.
Oui.
Il a eu un faux ordre de mission pour moi.
Donc, des policiers que vous avez connus pour les avoir soignés ou dans le cadre de votre laboratoire de police scientifique?
Les deux.
Dans les deux cas, c'est ça?
Dans les deux cas.
Oui. Donc, il y a quand même des gens bien dans la police qui savent se souvenir de leurs amis.
Ah oui. Tout à fait, oui. Et j'ai gardé vraiment d'excellents amis. Oui. Hein. Et puis, je grimpe finalement dans le train. Et dans le train, je vais jusqu'à la frontière belge. Là, je descends. Et un ami vient me chercher et m'emmène en Belgique. Là, je vais vivre au milieu de la forêt des Ardennes. Pendant 3-4 mois à peu près, et quelqu'un me dénonce, évidemment.
Et oui. Donc, et vous avez recommencé à soigner des gens sur place?
Non, c'était le profil bas.
Le profil bas, c'est ça, oui. Vous avez été dénoncé depuis la Belgique, ou comment ça s'est passé?
Oui, depuis la Belgique.
Depuis la Belgique.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Ben, je m'en vais encore une fois.
Oui, vous êtes prévenu alors, quand même.
Mais j'ai des bons services secrets.
Vous avez des amis partout qui vous restent à l'époque toujours de la police scientifique.
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, un garde-chasse vient me chercher avec une jeep, parce que la forêt des Ardennes, c'est pas des autoroutes.
Mm-hmm.
Et finalement, je vais terminer en passant 3 mois caché dans un grenier, chez des gens qui m'hébergent. Alors, le seul problème, c'est qu'ils reçoivent leur famille le samedi et le dimanche, etc. Alors, je suis dans le grenier, ben, je ne dois pas bouger le samedi et le dimanche, puisque la salle à manger est juste dessous.
Oui.
Alors, je dois me déplacer uniquement en chaussons, ne pas tousser, et donc je passe 3 mois dans le grenier.
Et toujours tout ça pour avoir soigné des gens, les avoir guéris,
sans qu'il y ait une
plainte de personnes.
Non, bien sûr. Et puis, j'en ai marre, c'est les greniers 3 mois, c'est, alors après 2 mois de prison, 2 mois et demi de prison,
ensuite
3 mois de grenier, après 3 mois dans la forêt des Ardennes, je commence vraiment à en avoir assez. Quoi. Et alors là, je regarde la télévision chez les amis belges, lorsque on apprend le décès, l'accident ou l'assassinat de la princesse Diana.
Oui.
Et alors là, il se trouve que j'avais des amis de famille, des amis de famille depuis 70 ans. Non pas que j'ai 70 ans, mais ils sont amis de la famille depuis 70 ans. À Jersey. Jersey, île indépendante, appartenant à la Grande-Bretagne, mais avec un statut tout à fait indépendant. Et je me dis, Jersey, les pays anglo-saxons sont des pays libres. C'est pas comme la France, c'est pas comme la Belgique non plus, parce que la Belgique est exactement comme la France. Et il faut que j'aille là-bas, mais j'ai pas de papier. J'ai pas de papier. Mais j'avais pris mes précautions avant. Et je m'étais procuré les papiers d'un ami qui me ressemble comme deux gouttes d'eau.
Mmh.
Donc j'étais devenu monsieur Ludwig van Vrijheid.
Ah ben,
qu'il faut que... Mais vraiment, me ressemblant vraiment comme deux gouttes d'eau.
Oui.
Simplement carte d'identité. Et je me dis, la princesse Diana, est morte, donc l'enterrement, il l'annonce, l'enterrement va être tel jour, et je me dis, c'est ce jour-là qu'il faut que je passe, parce que tous les douaniers, tous les policiers, ils vont être derrière leur poste de télévision portable, ils vont avoir l'oreille collée à leur poste de radio, je vais passer comme une lettre à la poste, et puis il n'y aura personne à voyager non plus. Je prends donc l'avion depuis le Luxembourg, où on me fait passer sans problème parce que mes papiers sont de Luxembourg.
Oui.
Et puis j'arrive à Londres. Et à Londres, ça rate pas. D'abord, il n'y a pas de voyageurs, il n'y a absolument personne. Tous les douaniers sont en larmes avec les policiers, etc. Ils regardent la télévision, écoutent la radio, c'est une catastrophe. On ne regarde même pas mes papiers. Mmh. À ce moment-là, je suis en Angleterre. Je suis à Londres. Mmh. Et je vais à Jersey, qui fait donc partie de la Grande-Bretagne. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contrôle de papier.
Mmh. Oui.
Et donc, dans le soir même, au moment où l'enterrement se termine, je suis arrivé à Jersey, et voilà, sans aucun problème.
Voilà. Et là, donc, à Jersey, vous vous retrouvez dans une île où vous connaissez personne, encore une fois...
Il y a la famille, mais bon...
Presque pas d'argent en poche, une fois de plus.
Si, là, j'ai 3 000 francs.
Ah, 3 000 francs, d'accord.
J'ai 3 000 francs français.
Quand on sait le prix de la vie à Jersey qui est très élevé, à ce que je crois savoir, ce n'est pas...
Tout à fait.
Terrible. Alors, vous avez à nouveau vos petites fioles, je suppose, qui vont venir à votre secours.
Très exactement. Mais non, là, bien sûr, j'ai toujours mes petites fioles, mais je vais m'organiser différemment.
Oui.
D'abord, il faut que je trouve un hôtel. Et donc, j'ai pas de carte bleue, j'ai des faux papiers, quoi. Et donc, je trouve un très très bon hôtel qui est le Dolphin. J'en profite pour dire que c'est un très très bon hôtel, qui est pas cher, qui est juste en face sous le Mont-Orgueil. En plus, le château Mont-Orgueil a été construit par les Britanniques pour lutter contre les Français. Alors, ça me plaît plutôt, oui.
Oui, oui.
C'est l'endroit où était réfugié aussi Victor Hugo.
Oui. Vous avez dit juste son prédécesseur.
Tout à fait. Et puis, pendant 3 mois, je ne fais rien. Si j'écris, je continue à écrire plus exactement Le prix d'une découverte.
Oui, et d'être mon juge.
Et d'être mon juge, oui, c'est le même livre, oui. Donc je continue à écrire. Mais je commence à voir des gens malades, des rhumatismes, etc. Alors à l'époque, je suis devenu belge. J'étais luxembourgeois en arrivant. En arrivant à l'hôtel, je deviens belge. Je deviens belge. Mais quand vous allez dans un hôtel à Jersey, il faut avoir une carte de crédit.
Oui, et vous n'en avez pas.
Ah ben oui, j'ai rien du tout. Et alors, je retiens d'abord l'hôtel pour 3 jours. Et bien sûr, l'hôtesse me demande ma carte bleue. Je dis, écoutez, je la cherche, mais attendez, je voudrais d'abord savoir, j'ai un petit peu d'argent là, est-ce que vous accepteriez de le mettre dans votre coffre? Parce que je ne veux pas me promener avec ça sur moi. Donc, je mets 3 000 francs. Et là, l'hôtesse me dit, oh, écoutez, ce n'est pas la peine de donner votre carte, parce que c'est suffisant pour couvrir les 3 jours.
Oui, oui.
Puis après, la confiance s'installera, etc. On ne me demandera jamais ma carte bleue. Jamais. Heureusement. Et puis au bout de 3 mois, à peu près, parce que là je suis à 3 mois.
Et vous n'avez toujours pas payé l'hôtel à 3 mois?
Non. Non, non. Mais j'ai des amis belges qui ont commencé à vendre le G5. Et qui, à partir du premier mois, donc, ont commencé à m'envoyer en liquide de l'argent.
Oui.
Ah bon, je me reconstruis encore une fois une petite vie, quoi.
Oui.
Voilà. Et puis après ça, ça va venir au grand jour, même à Jersey, parce qu'à force de voir des gens avec des rhumatismes, je décide d'intensifier la production du produit. Et puis donc ça va devenir tout à fait officiel, à tel point officiel que je vais rester exactement 1 an à Jersey. Et en 1 an, je vais soigner 2% de la population.
C'est extraordinaire, encore une fois.
Oui, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a 80 000 personnes. Oui, mais faire soigner 2% de la population, c'est quand même pas mal.
Et puis, qu'est-ce qui vous fait quitter
Alors, d'abord, le chef de la police devient le responsable de la vente du produit à Jersey, donc c'est un peu plus légal, bien entendu.
Oui.
Et puis un jour, je vais recommencer à recevoir des menaces, et notamment des menaces de mort. Les premiers exemplaires de mon livre, Le prix d'une découverte, arrivent par le bateau qui vient de Port-Bail. Mm. Et donc j'attends les livres depuis ma chambre qui donne juste sur le port. Et là, je vois des gens qui me plaisent pas du tout. Et qui me demandent surtout. Et là, je décide de partir parce qu'ils ont une voiture rouge dont j'ai remarqué qu'elle me suivait systématiquement depuis plusieurs jours. Et là, je m'en vais.
Oui.
Je m'en vais, je prends le bac.
Et vos livres, vous les avez quand même...
Ah ben non, je ne les ai pas eus. Mes livres, non, je ne les ai pas eus.
Vous n'avez même pas pris les raisons.
Il m'attendait à côté. Non, bien sûr que non.
Oui, donc ça s'est rajouté aux menaces de mort.
C'était des Italiens. Ça s'ajoutait. Oui. Alors, tout ça connaît trop bien.
Oui, oui.
Non, les livres, ils resteront à l'hôtel et je ne les récupérerai que 2 mois plus tard quand j'aurai trouvé refuge.
Qui serait à l'origine de ces menaces de mort et d'envoyer des gens comme ça
C'est impossible à dire.
Vous avez gêné trop d'intérêts.
Ah oui, oui, oui.
Que ce soit pharmaceutique, que ce soit même d'État ou autre.
Ah oui, oui, oui.
Oui, oui. Oui. Et donc, c'est là que vous partez pour l'Irlande.
Oui, alors, j'ai toujours pas de papier.
Oui.
Toujours pas de papier. Enfin, si, j'en ai des faux, quoi. Enfin, oui. Enfin, qu'ils sont pas. Mm. Mais il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, une carte de crédit est un papier d'identité. Or, avant de partir de Jersey, comme j'avais là commencé à réunir un peu d'argent, et j'avais pu ouvrir un compte à Jersey.
Oui.
Donc j'avais une carte de crédit.
Oui.
Et dans les pays anglo-saxons, donc la carte de crédit, surtout de Jersey d'ailleurs,
oui.
C'est comme un passeport, exactement.
Oui.
Et donc, sans aucun problème, je quitte Jersey et j'arrive en Angleterre. En Angleterre, je vais rester pendant quelques jours, 15 jours, hébergé par des journalistes d'ailleurs, à Londres.
Oui.
Après ça, je m'en vais au pays de Galles où je suis hébergé par des amis, parce que ça peut paraître bizarre, mais maintenant j'ai pas mal d'amis avec tous les gens que j'ai soignés dans le monde entier.
Oui,
alors,
oui.
C'est un véritable réseau qui s'est constitué.
Oui.
Et puis de là, je décide de partir en Irlande. Alors le problème, l'Irlande, est-ce qu'on passe facilement ou pas? On me certifie qu'il n'y a pas besoin, ce qui est vrai, mais je ne le sais pas à l'époque, qu'il n'y a pas besoin de papier pour faire le trajet entre l'Irlande et l'Angleterre, l'Angleterre et l'Irlande.
Mm.
Et mon ami anglais me propose de me conduire en voiture jusqu'en Irlande avec sa voiture britannique, bien sûr, et son passeport britannique. Et donc on fait la traversée et j'arrive en Irlande. En arrivant en Irlande, je ne suis pas rassuré du tout. Bien. Et il y a le policier à l'entrée des frontières qui ne pose pas la question. D'ailleurs, il nous dit « Vous êtes anglais ». Ah, puis, de toute façon, il y a la voiture qui est anglaise, effectivement. Mmh. Vous êtes anglais. Alors, mon ami anglais dit, bah, naturellement. Moi, je dis quelque chose comme, oui, je dis quelque chose.
Ah non, c'est pas. Oui, ça va pas. Vous avez dit, yes, c'est quand même un petit peu mieux.
Ah oui, mais là, je traduisais en français. Et puis, bon, ben voilà, je suis arrivé en Irlande. Et c'est en Irlande que, maintenant, ben, je me trouve depuis 3 ans et demi, quoi.
Oui. Et là, alors, en Irlande, vous avez soigné des gens à nouveau.
Oui, en Irlande, d'abord, je ne connais personne. Absolument, une fois de plus. Je ne connais personne. Par contre, mon anglais c'est amélioré.
Oui.
Je vais à Dublin, mais Dublin, c'est comme Paris, c'est aussi moche. Je veux dire, la vie est aussi... enfin, pas aussi... C'est mieux que Paris, quand même, mais c'est une grande ville. Et moi, je viens là pour trouver le calme. Alors, je visite un petit peu toute l'Irlande. J'arrive dans le Connemara. C'est joli. Mais on me dit qu'il y a un coin encore plus sauvage, qui est le Mayo. Alors... je vais visiter le Mayo et je tombe amoureux du Mayo. Voilà.
Voilà. Et vous êtes installé encore, donc vous avez un laboratoire maintenant sur place?
Ah oui, mais d'abord, chez moi, il y a un laboratoire, donc il y a la fabrication de produits, mais sous mon contrôle personnel, parce que ça,
oui.
On pourra parler des contrefacteurs.
Hein,
oui. Il y a 70 contrefacteurs au moins en France maintenant. Ça, c'est le produit que je fabrique dans mon laboratoire.
Il y a mes amis ont augmenté 63, je crois.
Ah, ça a augmenté.
Ça a augmenté déjà depuis.
Ça a augmenté, oui. Je suis à 70 en gros. Là,
donc, contrefacteurs. Alors, le problème, c'est que les contrefacteurs, eux, n'ont pas d'ennuis.
Non, aucun.
Vous qui avez créé le problème au départ, vous avez des ennuis, mais les contrefacteurs qui vendent le même produit de mauvaise qualité, eux, pas de problème.
Ah oui, et même le juge d'instruction a des rapports que j'ai vus, des rapports d'expertise indiquant que certains de ces produits sont toxiques parce qu'ils ne sont pas stabilisés.
Oui.
N'empêche que ces gens-là, ils ont le droit de faire des publicités, ils ouvrent des magasins, ils créent des compagnies au grand jour. Ils s'enrichissent considérablement.
Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux gens comme vous en France? C'est d'être des créateurs, c'est quoi?
Ben, on reproche d'abord à mon produit d'être un bon produit.
Oui, les imitateurs qui empoisonnent les gens avec des mauvais produits n'ont pas de problème.
Parce qu'ils ne gênent pas l'industrie pharmaceutique.
Ben oui, évidemment. Et vous les gênez, par conséquent, vous avez des problèmes.
Ah, mais moi, je gêne pour plusieurs raisons. Je gêne d'abord, parce que ça, je pense que c'est la principale raison, d'ailleurs. Je connaissais trop, enfin, je connais toujours, il y a trop de secrets d'État. Enfin, maintenant, oui. Je ne sais plus de secrets d'État, je les ai publiés.
Oui, c'est une garantie pour vous.
C'est une garantie pour moi.
Vous avez cette frénésie d'écrire. Vous en êtes à combien de livres, si on en parlait rapidement?
Ben, je ne sais pas.
Vous n'avez pas compté vos livres?
Non.
Vous les comptez. Alors, il y a déjà un livre, Loïc Leribault, Le silicium organique sur le G5, historique et application thérapeutique.
C'est un petit celui-là. Oui.
C'est un petit, mais c'est peut-être quand même le plus efficace pour... je vois cancer, système respiratoire, système nerveux, système immunitaire, traumatisme, système hormonal, système digestif, problème cutané, problème oculaire, système cardiovasculaire.
Oui.
Articulation et ORL.
Ça, c'est le résultat de 25 années,
d'expérimentation.
Ce n'est pas une des expérimentations, voilà. Maintenant, c'est de vérification sur plus de 100 000 patients.
Et alors, les autres livres, vous avez Micropolis.
Oui, ça, c'est l'histoire de la rénovation de la police scientifique.
De la police scientifique que vous avez, non pas rénovée, mais créée, parce qu'avant, elle n'était pas tellement scientifique. On était encore à, comment s'appelait-il déjà, on en parlait tout
Bertillon.
À l'heure, à Bertillon et au Bertillonnage.
Ça, c'est le même.
Là, nous avons maintenant... Alors, celui-là, c'est un roman.
Ah, c'est un roman, celui-là.
Présenté âme, avec, il n'y a pas le R, mais c'est assez rigolo. Effectivement, c'est un petit jeu de mots. Un roman. Le prix d'une découverte, lettre à mon juge que j'ai lu, qui raconte à peu près ce que vous venez de nous
c'est
raconter
ce que
maintenant, qu'on peut recommander à tous nos auditeurs. Mais encore faudrait-il dire où est-ce qu'on peut se le procurer. Et comment?
Mais c'était la société donc a été créée donc dans le county Mayo,
oui.
C'est dans l'ouest de l'Irlande, et on peut écrire, de toute façon on peut m'écrire aussi. Hein,
oui.
C'est le nom de la société, c'est LLRG5, Loïc Le Ribot G5, oui, et l'adresse c'est CO, c'est-à-dire au bon soin de,
oui.
Ross ROSS Post POST. Office, O-F-F-I-C-E, donc à Castlebar, C-A-S-T-L-E-B-A-R, au-dessous, C-O, c'est-à-dire le comté, Mayo, M-A-Y-O. Donc, République d'Irlande, il faut bien préciser République d'Irlande, parce qu'il ne faut pas confondre l'Irlande du Nord, occupée par les Anglais, Ulster, et la République d'Irlande, où j'habite.
Vous avez également publié l'Irlande un an plus tard, qui justement raconte votre aventure en Irlande.
Oui, tout
maintenant.
À fait. Maintenant.
Voilà. Donc on peut se procurer de la même manière. Et puis alors un petit livre amusant, mais peut-être méchant pour les gendarmes, qui s'appelle Loïc Le Ribot.
Ah, c'est pas méchant, c'est juste.
Ou le livre noir des clowns en bleu. Les clowns en bleu étant malheureusement donc les gens qui se sont emparés de vos inventions concernant la police scientifique, mais qui sont difficilement capables, semble-t-il, de l'utiliser. Vous avez des documents à l'intérieur, des photos où on les voit effectivement commettant des erreurs énormes dans l'utilisation de produits et l'application de méthodes que vous avez créées vous-même.
Oui, et alors il faut savoir que ça c'est un petit dossier que j'ai fait pour la presse. Pour préparer mon procès contre la France en Cour européenne de justice.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que ce livre est distribué gratuitement à ceux qui que ça intéresse. Il ne reste plus que 500, mais c'est envoyé gracieusement et il suffit de m'écrire en France. Alors là, c'est pas en Irlande, c'est en France,
oui.
À mon nom, boîte postale 9, 33380. Biganos, B-I-G-A-N-O-S. Et on reçoit le livre gracieusement.
Comment se fait-il parce que la police n'intervienne pas sur place, par exemple, pour les confisquer dans ce pays où la liberté de la presse ou d'écrire n'existe que dans... qu'à titre d'illusion pour les plus naïfs.
Non, j'ai dit qu'on pouvait m'écrire. Je n'ai jamais dit que c'était stocké là.
Ah, d'accord, très bien. Mais le courrier vous arrivera quand même, ne sera pas...
Ils peuvent très bien le faire, mais ça c'est une infraction à l'article numéro 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Oui. Alors, on peut parler, puisqu'on parle de livres également, du livre de Pierre Lens, Savant maudit, chercheurs exclus, dans lequel on parle de votre...
Il m'a fait le grand honneur de... Oui.
De votre histoire, oui. Incroyable, comme disent la plupart des gens, ainsi que de l'affaire Belzhansky, tout aussi incroyable. Et puis, il y a l'histoire dedans, Prior.
Prior, il y a 12
voilà. Scientifiques. Et en général, de gens, il y a découvert des choses contre le cancer ou contre des maladies gravissimes.
Oui.
Et comme par hasard, on découvre souvent que c'est pas seulement le hasard, et bien ces choses n'aboutissent jamais,
non.
Malgré des résultats et des gens soignés et guéris dans ces cas-là.
Et pratiquement
comme
tous...
si quelque part une force occulte voulait absolument que on continue de faire dépenser l'argent des Français par intermédiaire de la sécurité sociale avec des produits extrêmement chers, inefficaces, mais remboursés.
Tout à voilà. fait. Et alors, l'histoire donc de ces 12 chercheurs, ils ont quand même tous, ils sont tous morts d'accident, ils se sont tous suicidés bizarrement, ils ont disparu. Je crois que je suis le dernier survivant, en fait. Voilà.
Oui, ben j'espère pour vos malades que vous allez survivre longtemps et en aider d'autres à survivre. Alors,
ce serait plus un problème, parce qu'il y a l'équipe maintenant qui diffuse mes produits. Il y a, je sais pas, il y a peut-être une centaine de médecins qui travaillent et de thérapeutes qui travaillent avec moi. Là, ce serait... Non, là, ce serait vraiment pas un problème.
Oui, enfin d'accord, c'est peut-être une bonne chose pour dissuader les gens de douter. Si c'est pas un problème, je comprends.
Ah, c'est réellement pas un problème.
Si vous pouviez, pour terminer, nous faire un exposé rapide sur les propriétés du G5. Alors après, qu'est-ce qu'on peut espérer soigné avec le G5. Bien qu'on n'ait pas le droit de le considérer comme un médicament, mais peut-être comme un complément alimentaire, vendu de l'étranger en fonction des lois européennes qui permettent de vendre de l'étranger, autorisé dans les pays anglophones,
tout
si je ne m'abuse. Voilà. Alors donc, cette chose qui en France n'est pas considérée comme un médicament, que guérit-elle illégalement?
Mais le problème, c'est qu'elle guérit... Ce que j'allais dire, c'est presque tout à partir du moment où il ne s'agit pas de problèmes mécaniques. Je veux dire, si vous vous déplacez la colonne vertébrale, par exemple, ça ne va pas remettre les os en place. Ça, c'est évident.
Bien sûr, oui.
Par contre, les douleurs, oui, ça va calmer. Les inflammations, ça va calmer. Et finalement, on sait qu'une cellule a un pôle positif et un pôle négatif. C'est connu depuis très longtemps. Et on sait que lorsqu'une cellule est attaquée, que ce soit par un choc, par exemple, ou par des bactéries, ou ce qu'on veut, les pôles vont migrer, c'est-à-dire que les pôles ne sont plus parfaitement alignés. Il faut imaginer la cellule comme une colonne vertébrale, hein, le pôle positif en haut, le pôle négatif en bas, par exemple. Ben, s'il y a une déviation de la colonne vertébrale, ça ne marche pas, et la cellule est malade. Et elle devient faible. Autrement dit, tout est une question d'électricité, en réalité. Or, il se trouve que la molécule de G5 est entourée, si j'ose dire, d'une masse d'ions positifs et d'ions négatifs qui sont en perpétuel mouvement. Et ce que je pense, c'est une hypothèse, mais c'est la seule explication possible, c'est que la molécule échange en fait son excès d'ions négatifs et d'ions positifs avec les cellules qui sont en mauvais état. C'est ce qui explique que quand on boit le G5 ou quand on le met sur la peau, beaucoup de gens sentent des sensations électriques ou des sensations de froid ou des sensations de chaud qui diffusent à travers le corps et qui vont directement à la partie qui est malade. Mais ça se fait parfois en quelques secondes. Parfois, il faut une heure, deux heures. Alors je pense que pourquoi le G5 guérit-il pratiquement tout? C'est tout simplement parce qu'il renforce les défenses immunitaires de l'organisme, tout simplement parce qu'il rééquilibre l'organisme.
Voilà, Jean-Paul Leperlier, ce qu'on vient d'entendre, c'est un entretien que tu as réalisé, il y a combien de temps maintenant?
C'était fin décembre, d'ailleurs, c'était tellement enthousiasmant que j'en ai oublié...
Dans le micro!
C'était tellement enthousiasmant, d'ailleurs, c'était fin décembre, et j'en ai oublié Noël, j'en ai oublié de passer Noël avec ma famille. J'ai passé Noël sur les routes d'Irlande, au retour de là-bas, puisque au retour, j'ai traversé l'Irlande, puis j'ai retraversé l'Angleterre, puis ensuite, j'ai été jusqu'à Jersey, puis de Jersey, j'ai nouveau pris le bateau pour la France, en ayant contrôlé à peu près tout ce qu'il était possible de contrôler. Alors, évidemment, il y a des moments qui sont totalement incroyable, mais quand on voit que des histoires tellement incroyables, celles qu'on a pu vérifier en tout cas sont vraies, telle l'histoire de ce policier dont il parle à peine d'ailleurs, et il en oublie même si on peut dire des choses extraordinaires quand même. Bon, je parle de ce policier qu'il est allé voir à Jersey par exemple. Effectivement, c'est une aventure inouïe. C'est une aventure humaine extraordinaire.
Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord qu'il a 36 vies, quoi. Il est comme les chats, il a au moins 9 vies.
Il a la vie donc de l'étudiant génial qui avait des résultats étonnants quand même. Premièrement, il y a la vie de celui qui a créé une première fois quelque chose en France d'unique, qui nous a rendu célèbres dans le monde entier, donc la police scientifique. Il y a ensuite la vie du fugitif, qui en elle-même pourrait valoir un film. Et puis il y a la voix du chercheur, de celui qui guérit. Et puis maintenant, qui réussit d'ailleurs à s'installer. Il y a maintenant l'industriel installé en Irlande et qui réussit là encore parfaitement. La grande leçon étant que pour ces gens-là, il n'y a plus de place en France, voilà. Il n'y a plus de place en France, puisqu'on arrive en période électorale, c'est comme le moment d'en reparler. Et effectivement, je ne vois vraiment pas pour qui les gens pourraient voter dans un pays où l'industrie avec les 35 heures a été totalement détruite, la recherche totalement détruite, la santé, ça nous fait penser à M. Fabius, qui était le responsable du sang contaminé, parce que c'est lui qui était le Premier ministre, et tout le monde sait qu'il était au courant et qu'il se trouve avoir les plus hautes responsabilités aujourd'hui à nouveau au Parti Socialiste, en compagnie de M. DSK, dont brusquement toutes les charges au plan judiciaire ont disparu comme par enchantement, et c'est pour ces gens-là qu'on voudrait nous faire voter aujourd'hui dans le clan d'en face avec Michel Barjac qui se moquait de M. Le Pen et pour avoir raison contre M. Le Pen minimisait le sida, combien de gens sont morts à cause de ça, comprenez? Alors effectivement, quel que soit le domaine dans lequel on examine, on se dit Mais comment les gens peuvent-ils voter simplement autrement que pour la cause nationale?
On en arrive d'ailleurs à un résultat qui est assez effrayant, c'est que on sent bien que dans les propos de Loïc Leribaud, par moment, ce qu'il a subi de la part de l'autorité administrative, de l'autorité politique, de l'autorité judiciaire, de l'autorité policière, finit par engendrer chez lui une détestation de la France.
Oui, attendez, non, pas de la France. C'est très important que je vous coupe, excusez-moi. Pas de la France, mais du système, en fait. Hein, du système. Parce que remarquez bien qu'à chaque fois qu'il a des problèmes, il trouve des policiers qui se conduisent parfaitement pour l'aider. Ouais. Il trouve des juges d'instruction qui l'aident. Il trouve des malades fidèles. Vous savez, j'ai rencontré là-bas la personne qui était chez Leribaud là-bas, et il n'en parle pas non plus, c'est encore inouï. La personne qui l'a aidé tout le temps, qui l'a suivi partout, qui l'a pris en amitié, était le clerc de la personne qui venait le saisir chez lui, comment s'appelle déjà ça, les huissiers. Alors, ouais. Le clerc d'huissier qui venait saisir chez lui, s'est prise d'amitié pour lui, j'étais en Irlande, elle était venue passer Noël avec lui, comprenez. Dans ce pays, la France, il y a toujours des gens merveilleux, mais il y a un système absolument odieux.
Une anecdote à propos d'huissier, il y a un ami, dont je ne donnerai pas le nom évidemment, qui a eu des problèmes financiers importants, et enfin, importants pour lui, parce que par rapport... à l'ensemble des problèmes qui se posent, c'est dérisoire. Mais un jour, il voit arriver un huissier qui vient le saisir. Il lui dit, mais il n'y a rien à saisir, je n'ai que ma bibliothèque. Alors, l'huissier lui dit, c'est votre instrument de travail. Oui, c'est mon instrument de travail. Bon, alors l'huissier regarde et lui dit, ah, mais vous avez ce livre-là, ah, mais vous avez ça, mais vous intéressez à tel sujet. Oui, bien sûr, dit cet ami. Ah, mais c'est formidable, moi, ça me passionne. Et les voilà embarqués dans une conversation. Venez donc dîner à la maison, on continuera cette intéressante conversation. Et l'huissier est devenu un de ses meilleurs amis, il le reçoit à sa table, il bavarde, etc. Et il lui dit, de toute façon, tant que c'est moi qui serai chargé de saisir chez vous, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Non, mais je crois que...
Toujours, ça aussi, c'est très français.
Tout à fait, mais il y a en France toujours des gens merveilleux. C'est un pays qui pourrait être toujours le pays du bonheur de vivre. Mais à l'heure actuelle, il y a une camarilla à la tête de ce gouvernement. De ce pays en général et des gouvernements successifs, en réalité, qui rendent la vie intenable.
J'aimerais que tu nous décrives physiquement, le Leribaud. Comment il est? Parce que
moi, c'est un
homme de quel âge?
Alors justement, quand on vous le fait... Oh, il doit avoir dans les 50 ans, je suppose.
Il est en 47,
pour vous dire.
Ah ben 47, oui,
mais c'est ça.
Oui,
je ne suis pas trop trompé, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, justement, c'est quand on le fait passer pour une brute épaisse, pour quelqu'un de dangereux. C'est un petit bonhomme, rond, pas vraiment rond, mais si vous savez, la rondeur dont on parle en France, vous voyez, cette rondeur des propos, et en même temps, pétillant d'humour, charmant, gentil, cherchant à faire plaisir, le détail qui fait plaisir. Vraiment, c'est un des hommes les plus charmants qu'on puisse rencontrer. Alors, si vous voulez, ça ajoute encore à l'étonnement. Le personnage ne correspond pas du tout à quelqu'un qui est recherché, demande de recherche dans le monde entier.
Oui, d'ailleurs, c'est pas du tout étonnant qu'il ait pu franchir les frontières, les doigts dans le nez.
Parce qu'on n'imagine pas du tout qu'on peut pas rechercher ce genre de personnage, quand même. C'est quelqu'un de charmant, alors qui est plein d'humour, qui a écrit des livres absolument amusants. J'ai lu ses livres, il les écrit, il s'amuse, il raconte ça, c'est vraiment, quoi. C'est un personnage très étonnant.
Il m'a envoyé il y a quelque temps une revue, non pas une revue, mais un projet de revue qu'il avait, qui s'appelle Le Sanglier.
Oui, j'étais pas au courant.
Il m'a envoyé ça en me disant, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de faire ça. Bon, alors c'est pas une revue, c'est une compilation de coups de gueule, de réactions, de trucs marrants qu'il a trouvé. Donc il trouve une photo drôle, il la colle dedans, il trouve un dessin qui l'amuse. Et puis, alors je l'ai eu au téléphone depuis, et je lui dis, alors qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre revue? Il me dit, écoutez, non, je crois que pour l'instant, le premier numéro, je pense qu'il y a de quoi faire un livre.
Ah ben voilà, oui.
Voilà, il a accumulé tellement de choses qu'il va certainement faire un bouquin. C'est vrai que c'est plein de drôleries, et c'est vraiment, il fait partie de ces gens qui ont l'esprit de résistance, le véritable esprit de résistance. Il est inoxydable. On sent bien qu'il n'y a rien à faire, on ne le fera pas caler, on peut l'enfermer dans un cul de basse-fosse, on peut le condamner à se planquer dans un grenier, on peut l'obliger à s'enfuir avec ses chaussettes en pleine nuit.
Oui.
De toute façon, il va se relever, il va repartir pour une nouvelle existence. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Oui, chez lui, peut-être quand même, alors un côté un petit peu plaisantin, 68 heures, qui s'est un peu greffé là-dessus, un côté bon qui l'aide finalement à résister à tout ça. Moi, je pense que j'aurais beaucoup de tristesse à Mirko Beljanski, qui lui était un chercheur dans le sens sérieux du chercheur, dans le sens acharné au travail, dans le sens avec peu de fantaisie.
Chez Mirko Beljanski, il y a une dimension tragique.
Et finalement, il en est mort. Il n'a pas voulu quitter la France. Sûr de son droit, il n'a pas voulu admettre qu'il était possible qu'on le lui fasse, alors qu'on le tuait, on le faisait, il ne voulait pas encore l'admettre, c'était pas possible, il en est mort.
Mais parce que il y a une dimension tragique qui est liée à la race, littéralement.
Sans doute, oui.
C'est un Serbe.
Oui.
Et il y a cette dimension du tragique de l'existence chez lui. On le voit, oui, dans son visage, d'ailleurs.
Oui.
C'est un visage, quand on voit ses photographies, il y a un visage presque d'enfant et de poète.
Oui, c'est vrai.
Et il regarde l'appareil photo d'un air de dire, ben oui, la vie est un beau cadeau, mais c'est dur quand il y a des moments où c'est douloureux. Et on comprend très très bien pourquoi cet homme qui a fait des découvertes extraordinaires n'a jamais voulu admettre, effectivement, qu'on ne voulait pas. Lui, il pensait qu'on ne pouvait pas le prendre au sérieux. Mais c'est une erreur de diagnostic. En réalité, c'est parce que la mafia des laboratoires l'a vraiment pris au sérieux qu'ils ont décidé d'avoir sa peau. Parce que s'il n'avait pas pris au sérieux, il ne se serait pas occupé de lui. C'est un malentendu.
Je crois qu'ils ont pris également le ribot très au sérieux dans le domaine de la drogue.
C'est ça, l'un comme l'autre. Ce sont des gens qui ne sont pas... Ce qui est drôle, c'est qu'ils continuent à se plaindre de ne pas avoir été reconnus.
Mais la différence entre les deux, c'est que Beljanski a été quand même, à un certain moment de sa vie, beaucoup plus courtisé par le système. Par trois fois, on lui a proposé, par exemple, d'être franc-maçon. Il ne voulait faire partir d'aucune coterie. Il estimait vraiment que de sa dignité de réussir par son travail, et puis pas par les petites copineries de droite et de gauche, comprenez. Il a quand même, il a refusé d'entrer dans le système, alors que chez l'autre, c'est qu'il n'a pas été courtisé du tout par le système, il aura fait peur dès le départ quand même.
Mais quand il raconte l'histoire de ce directeur de laboratoire pharmaceutique qui arrive avec un sac qui contient 10 millions de francs, 1 milliard de centimes.
Alors ça, c'est difficile à croire, si vous voulez. Moi, a priori, c'est tellement énorme que j'aurais du mal à le croire. Mais quand j'ai vérifié tout au long de cette affaire un tas de choses aussi incroyables et qui s'avéraient être totalement vraies, on ne peut plus honnêtement douter.
Oui, on ne voit pas pourquoi il mentirait sur cette histoire-là. Je pense que si c'était une histoire inventée, il l'aurait rendu plus vraisemblable, parce que
le caractère
principal des histoires inventées, c'est qu'elles sont
vraisemblables. On imagine difficilement quelqu'un venait donner aux gens des raisons de ne pas accepter et dire, écoutez, oui, c'est pour vous prendre, c'est pour détruire votre invention. Il aurait pu ne pas le dire, ça aurait été plus vraisemblable quand même quelque part.
Mais ça, je le comprends très bien.
Mais
parce
ce cynisme, ils sont tellement sûrs de ce que l'argent va leur apporter qu'ils peuvent se permettre mettre le cynisme en prime, et là, ils sont tombés à côté. Ouais. Voilà.
Et on comprend. D'ailleurs, ça explique la suite, parce que si on est capable de donner un milliard à quelqu'un, enfin un milliard de centimes
on
à quelqu'un pour qu'il se tue,
on est aussi capable de le donner à un tueur pour le liquider. C'est certain.
Et on voit d'ailleurs par la suite, quand il explique à Jersey, je connais pas Jersey, mais enfin j'imagine ça comme une espèce de petit paradis sur terre tranquille, avec
il y a des palmiers,
des vieilles dames à cheveux blancs qui se baladent entre les palmiers, oui,
c'est très beau.
Et un constable débonnaire qui circule dans les rues, on a du mal à imaginer une voiture rouge arrivant avec deux ou trois tueurs de la mafia à bord.
Oui, moi, je suis pas sûr que ce sont des gens de la mafia, mais alors tout ça, j'ai posé la question, ça m'a quand même été confirmé par le connétable qu'effectivement, il avait dit qu'il était menacé, et que l'autre avait dit, écoutez, je sais pas si on pourra, puisqu'il n'y a pas de rien de n'a été fait contre vous, donc on peut arrêter personne. Ouais. Et par contre, s'ils font quelque chose, ça sera trop tard. Voilà. Et en fait, c'est pas tellement vraisemblable, d'autant qu'il dit bien, je ne suis pas du tout certain. Mais enfin, a priori, compte tenu de tout ce qui s'était passé avant, je vois ces gens se renseigner et demander mon nom sans me parler, et on sent qu'il y a un climat de menace, et ma foi, c'était finalement dans la logique que le stade suivant, et puis comme il le dit si bien, dans ce livre de Savants maudits et chercheuses exclues de Pierre Lance, par exemple, effectivement, tous ces gens qui ont gêné, d'une manière ou d'une autre, ont disparu. La personne avec qui il travaillait, dont il donne le nom également, a été retrouvée suicidée d'une manière tout à fait anormale, quand même.
Oui.
Donc, on peut très bien se dire que ça pouvait être la suite logique. Et là encore, là, à l'heure actuelle, il a une adresse que personne ne connaît en Irlande. Même en Irlande, dans ce coin perdu, il prend beaucoup de précautions. Cela dit, si les gens vont là-bas pour l'ennuyer, je leur souhaite bien du plaisir, parce que c'est un petit pays du bout du monde, là où il est. Tout le monde connaît tout le monde. Quand il rentre dans un pub, tout le monde l'acclame. Il est adoré, là-bas. Donc, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à le surprendre. Son meilleur ami, c'est un curé d'une église du coin, alors qu'il n'est pas lui-même croyant. Mmh. Et tout en n'étant pas croyant, il a quand même fait cadeau d'un Saint-Pierre à cette église.
Je le trouve assez gonflé de ne pas être croyant, parce que étant donné les interventions de la Providence dans son trajet et de son ange gardien, il pourrait quand même avoir la courtoisie de reconnaître que ça existe.
Bah oui, malheureusement, moi je dis un peu dans son cas, on ne peut pas s'inventer la foi. Mais par contre, quand on voit se conduire fort bien les gens qui croient, c'est que ma femme ne croit pas, par exemple, ni moi. Mais lorsque nous voyons les traditionnalistes, par exemple, ma femme me dit, c'est tout de même inouï, ils sont les seuls à se conduire parfaitement bien. Ces gens-là portent la vie, ces gens-là font des enfants, ces gens-là construisent. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut se dire ça, et malheureusement, on ne peut pas s'inventer la foi.
Ça viendra après.
Émerdons son cas, voilà.
Mettez-vous à genoux et priez, la foi viendra.
Je ne sais pas. Je me suis donné toutes mes chances et je n'ai pas la foi. Cela dit, on peut voir les choses en tout cas. En ce qui concerne le combat que nous menons tous, il y a des gens qui se comportent bien. Il est certain que c'est dans ce milieu-là qu'on les voit.
Alors maintenant, un secret personnel. Est-ce que vous utilisez les produits Lorigo?
Alors, j'ai eu un petit problème, parce que quand je suis allé là-bas, j'avais de gros problèmes de dos, et puis j'ai subi des traitements, radiothérapie, qui m'ont brûlé beaucoup au niveau des hanches. Un traitement presque criminel, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Et je ne pouvais même pas le matin mettre mes chaussettes, si bien je vous faire un aveu, je ne les retirais pas le soir. Alors, c'est pas forcément recommandable, mais sinon, c'était une demi-heure perdue le matin. Bah, rassurez-vous, depuis quelques temps, je les retire joyeusement en plus, parce que c'est une fête, la première fois que j'ai tiré mes chaussettes depuis longtemps. Bon. En réalité, je suis allé voir ce monsieur et je lui ai dit, écoutez, bon, ben, finalement, alors en plus, quand je suis arrivé là-bas, le voyage était tellement long, assis dans une voiture comme ça, et ma voiture n'est pas trop confortable, que je marchais comme un vieillard. Ah, je lui ai dit, écoutez, tout ça, c'est bien gentil, mais pour commencer, vous allez me mettre à moi votre produit, voir ce que ça va faire. Il m'a mis son produit, j'ai eu deux fois plus mal pendant 3 jours. Je lui ai dit, écoutez, mais c'est pas possible. Il me dit, mais monsieur, je suis en train de faire travailler ce qui ne va pas, évidemment que ça vous fait mal. Et pendant les premiers jours, j'ai eu très mal. Et puis le troisième jour, j'étais sur la route pour rentrer vers la France, et j'ai toujours été étourdi. Et je marche vers ma voiture, et je me dis, j'ai oublié quelque chose. Je retourne vers l'hôtel, j'ai rien oublié. Je dis, c'est bien l'impression que j'ai oublié quelque chose. Et puis brusquement, je me dis, mais bon Dieu, j'ai oublié que j'avais mal au... Et effectivement, je marchais comme un jeune homme. Au bout de 3 jours, ça avait fait de l'effet. Alors, depuis ce temps-là, j'ai continué d'en mettre régulièrement. On peut employer ça sous forme d'un liquide, qui est une sorte donc d'eau avec un tout petit pourcentage donc de silice. Et puis, ou bien il y a une pommade. Et personnellement, il lui préfère utiliser l'eau qu'on peut soit boire, soit utiliser en compresse. Bon, et pour ma part, j'ai trouvé que la pommade était plus facile à mettre et fonctionnait bien. Alors, je m'en mets régulièrement quand je dois voyager ou autre chose. Mais depuis ce temps-là, je n'ai plus dans le dos. Récemment, un de mes amis qui quittait un énorme hôtel particulier avait un tas de meubles inutiles. Il m'a dit écoutez, venez, prenez ce que vous voulez. Alors, il m'a donné deux énormes canapés, un énorme fauteuil, des tables, des meubles très lourds. Et j'ai dû faire 800 km dans ma journée avec mon petit minibus de gendarme dans lequel je transporte mes enfants. En l'occurrence, j'avais démonté les sièges. Et donc, pour emmener ça chez moi, et puis 800 km en transportant des choses très lourdes que j'ai dû sortir, mettre dans le camion, les remonter chez moi. Le lendemain matin, je dis à ma femme, je ne sens rien, je n'ai pas mal dans le dos du tout. Si bien que je l'ai utilisé pour moi-même. Et puis j'ai vu les résultats pour les autres.
Merci. Oui. Attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Comme dans l'affaire Beljanski, la raison pour laquelle j'ai prié Jean-Paul de venir ce soir, la raison pour laquelle je lui avais demandé de faire cet entretien avec Loïc Leribaud, c'est pas une raison thérapeutique. Moi je suis pas thérapeute, je suis pas technicien, je n'y connais rien, je suis journaliste. Et je prends le parti de donner la parole aux gens qui ne l'ont jamais. Alors Beljanski, c'était ça. Leribaud, c'est ça. Il est évident que j'ai aucun titre à me prononcer sur le résultat, sur les effets réels, sur les capacités réelles de ces produits. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai rencontré que des gens qui m'ont dit que ça a été une réussite. J'ai de bonnes raisons de les croire. On peut toujours essayer. Voilà. Donc, dans le cas de Leribaud, je trouve que son aventure est extraordinaire. Je trouve que le personnage que je ne connais pas personnellement, mais avec qui j'ai eu des contacts téléphoniques, toi, Jean-Paul, tu le connais personnellement.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Je trouve qu'il mérite qu'on s'intéresse à lui. C'est quand même quelqu'un de tout à fait atypique. Et donc, je vous propose, si ça vous intéresse, de prendre vos renseignements à la source. Je vais vous donner l'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour demander des renseignements, pour demander des explications, pour demander où on peut se procurer les livres de Leribaud. Et puis ensuite, vous ferez votre opinion vous-même. Vous n'avez pas besoin de gourou, de gendarme, de juge, de politicien ou administrateur pour ça. Alors l'adresse, c'est LLR, comme Loïc Leribaud, LLR G5, Care Of, c'est-à-dire CO, Ross, RO2S, Post Office, POST, plus loin, Office, je n'appelle pas, Castelbar, CASTLEBAR, Co. Point, ce qui veut dire county, Mayo, MAYO, et République d'Irlande, ou pour les anglophones, Republic of Ireland.
Très bien.
Voilà. Vous vouliez dire quelque chose ?
Moi, je veux dire, j'ai combien de minutes? Je peux faire une suggestion de vote parce que je suis une maniaque. Suggestion de vote pour dimanche prochain, premier tour de l'élection présidentielle. Sortez les sortants. Ni Chirac, ni Jospin. Moi, qui vous voulez autrement?
J'ai trouvé un slogan, c'était dès le premier tour, ôtez Chirac.
Ôtez Chirac. Ôtez Chirac.
Bonne semaine, que Dieu nous garde et à bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du Pays Réel et de la Francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, émission préenregistrée le 28 mars 2002 et diffusée pour la première fois mercredi 17 avril 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant un chèque distinct pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57 minutes, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie. À 21h, les soirées musicales de Radio Courtoisie. À minuit, le libre journal des économistes dirigé par Jacques Garello. Invité, Gérard Bramoulet, doyen honoraire de la faculté d'économie de l'université d'Aix-Marseille 3. Patrick Simon, avocat, écrivain. Georges Lannes, maître de conférences à l'université de Paris-Dauphine, Jean-Pierre Santi, professeur à l'université d'Aix-Marseille 3. Les programmes dans l'élection présidentielle. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, invité Jean-Paul Leperlier, journaliste, écrivain, Loïc Leribaud, expert en criminologie, écrivain, les aventures d'un chercheur. À 6h, les livres du jour, l'art littéraire, émission de Pierre de Bréritzen du 27 mai 1992, invité André Castelot, historien. C'était il y a 10 ans, un regard nouveau sur la campagne de Russie. Bonne soirée sur Radio Courtoisie, dans moins de 2 minutes, les soirées musicales.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 21h.